Vous êtes sur RTL. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est la dernière de la saison. Votre rendez-vous du samedi, on refait le match, sera en grande partie consacré à l'Olympique de Marseille et au flou artistique sur le possible départ de John McCourt, de Jacques Henriero, la vente d'un club qui n'est décidément pas à vendre. C'est ce que vient de déclarer le président. Nous évoquerons également le contrat de Dimitri Payet, prolongation de contrat, baisse de salaire. Mais nous avons aussi comme grand témoin, un très grand témoin, Gervais Martel, sera avec nous jusqu'à 19h. L'ancien président de Lens nous donnera son sentiment sur l'actualité. Voilà ce qui va faire l'émission, avec également en fin d'émission tous les chroniqueurs, les chroniqueurs qui ont fait cette saison seront avec nous et parleront d'un thème choisi par leurs soins qui les a marqués, qui a marqué pour eux cette saison 2019-2020 si particulière. Nous sommes avec Philippe Sanfourche et Eric Silvestro d'RTL. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Tout à l'heure nous rejoindrons après 19h Raymond Abou et Baptiste Després du Figaro. Baptiste Durieux sera évidemment avec nous pour relayer les opinions des auditeurs qui seront à l'écoute. Écoute avec fidélité et confiance comme d'habitude. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL, mais également avec Baptiste Després du Figaro et Raymond Abou qui va nous rejoindre et Baptiste Durieux qui va relayer les opinions des auditeurs sur ce que l'on a développé avec notre premier témoin, notre grand témoin de ce soir, c'est Gervais Martel. Gervais Martel, l'ancien président du Racing Club de Lens entre 1988 et juillet 2012, puis entre 2013 et 2017. C'est Joseph Ougourlian qui a pris le relais, le natif de Paris d'origine libano-arménienne, un ingénieur qui a acheté le club. Gervais Martel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment allez-vous, Gervais ?
Très, très bien, très, très bien. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir, Gervais.
Bonsoir, Gervais.
Bon, Gervais, la première question, on va évidemment parler de Lens, on a quelques minutes pour ça, mais la première question qui me vient à l'esprit, parce que ça bouillonne dans tous les sens du côté de Marseille, avec Mourad Boudjelal, l'ancien patron du RCT qui se dit mandaté par des propriétaires, par des grands financiers pour soumettre un projet olympique de Marseille. Vous qui avez connu pratiquement tout à Lens, notamment des gens un petit peu bizarres, on va dire, entre guillemets, qu'est-ce que ça vous...
Financement étranger, on dira.
Voilà. Qu'est-ce que ça vous suggère, ce genre de... On a l'impression que Boudjelal, en fait, il veut renaître, mais on ne sait pas trop où il veut aller. Et en fait, ça a été démenti par la direction de l'OM il y a quelques minutes.
Bah écoutez, c'est quand même assez surprenant parce que d'abord, si on veut racheter l'Olympique de Marseille, on se fait discret sur l'opération, hein, parce que déjà plusieurs fois, McCourt avait déjà démenti la vente éventuelle de l'Olympique de Marseille, dont d'ailleurs on commence pas à annoncer dans la presse quel est le, ça va être repris, le montant qui est donné. Moi je suis sidéré de voir tout ça, donc je me pose beaucoup de questions. Hein, j'ai pas à juger ce que fait l'ex-président de Toulon Rugby, mais je suis extrêmement surpris sur la forme de cette opération et la façon de communiquer.
Philippe Sanfourche, RTL.
Globalement, Gervais, ça, vous trouvez que c'est une bonne opportunité ou qu'il faut faire attention avec tous ces investisseurs étrangers qui en ce moment se ruent sur le football français? Alors, il y en a des différents. Hein. Il y a les fonds américains, le modèle Bordeaux qui aujourd'hui est très décrié. Il y a évidemment ce qu'on connaît avec le PSG, avec le Qatar. Il y a le modèle niçois. Enfin, il y a plein de modèles différents, mais on s'aperçoit que tous les investisseurs étrangers sont en train de fondre sur le football français. C'est une opportunité ou faut le craindre ?
Bah écoutez, je sais pas si à 700 millions c'est une opportunité, parce que c'est les chiffres que j'ai eu comme vous. Ça me semble énorme. Donc, et je, pour tout vous dire, j'y crois à moitié. Maintenant, sur le reste, on savait très bien que le football français allait attirer de plus en plus d'investisseurs étrangers, parce que c'est pris dans les autres pays, déjà premier point. Et deuxième point, avec les droits télé qui ont été en augmentation avec la signature avec Mediapro, c'est quand même plus intéressant aujourd'hui d'investir en France qu'il y a 6 ou 7 ans. Alors après, il y a des gens qui peuvent investir et qui n'ont peut-être pas la culture footballistique, donc ça c'est un peu embêtant. Je vais pas citer des clubs pour pas les embêter, mais nous, heureusement, on a la chance à Lens d'avoir un investisseur qui justement s'est investi tout de suite dans le club en s'intéressant au club. Donc ça c'est essentiel. Quand l'investisseur se trouve à plusieurs milliers de kilomètres et qu'il est pas présent, C'est là où c'est vraiment inquiétant.
Éric Silvestro.
Ça peut devenir inquiétant, pardon.
Après, Gervais, le problème, c'est qu'il y a une recherche des capitaux pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a peu d'investisseurs locaux qui peuvent mettre énormément d'argent. Et donc, parfois, c'est vrai que les sirènes d'un grand investisseur, qu'il soit propriétaire individuel ou grosse société qui arrive, c'est difficile de refuser aussi quand on veut grandir et quand on veut exister dans ce milieu, quoi.
Oui, ou quand on veut récupérer sa mise. Aujourd'hui, quand vous regardez le foot français, bon, il reste beaucoup de clubs moyens qui sont propriétés de gens français et d'entreprises. Hein. Je pense au Stade de Reims, par exemple, je pense à Angers ou d'autres, ou Dijon. Maintenant, il y a aujourd'hui des clubs qui ont, je dirais, un nom qui est différent, qui ont peut-être un bassin de population qui est différent, et cela intéresse. Donc, c'est le cas de Bordeaux, ça a été le cas de Nice, ça a été le cas de Monaco par rapport à l'image de Monaco. Alors ça peut réussir, mais bon, il faut aussi derrière que les gens investissent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que dans le football aujourd'hui actuel, vous regarderez dans la compétition de ces grands clubs, à part l'Olympique Lyonnais, il y a très, très peu de joueurs qui restent formés au club ou qui ont été formés au club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une course à l'armement et une course de recrutement qui est permanente et ça coûte énormément, énormément d'argent. Donc, il peut y avoir que des sociétés ou des fonds étrangers qui puissent avoir ce genre d'investissement. Le football tel qu'on l'a connu il y a 15 ou 20 ans, et je suis pas nostalgique en disant ça, mais c'est, aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est plus du tout le même football. C'est un football de trading. C'est un football où je vais pas citer les clubs encore pour pas les embêter, mais dis-moi quel est le joueur qui était formé dans ton club. Ah bon, il est même pas dans le 18 de départ. Mais c'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Il faut s'habituer à ça.
Philippe Sainfourche.
Avant de parler justement de la formation, et c'est important parce que Gervais Martel, faut pas l'oublier, avait créé aussi la Gaillette avant de quitter Lens, et que on voit que c'est une formidable usine, un champion et un modèle aussi pour beaucoup d'autres clubs. Donc c'est un sujet qui sera important, mais je voudrais qu'on termine sur cette histoire de Marseille, que ce soit avec l'investisseur actuel ou un autre qui arrive, finalement peu importe, mais est-ce qu'il est pas important, nécessaire à moyen terme, que cet Olympique de Marseille redevienne le club phare qu'il a été pour offrir enfin une vraie concurrence au Paris Saint-Germain, et ce qui permettra à cette Ligue 1 d'exister vraiment en face des autres grands championnats?
C'est sûr que ce serait formidable. Maintenant, je connais pour moi cet investisseur tunisien. Est-ce qu'il y a les moyens aujourd'hui d'assumer un investissement qui est important pour être un grand club européen? C'est pas difficile. Il faut aujourd'hui, d'une part, racheter le club, ça c'est une évidence, mais ensuite, il faut investir chaque année 100 à 150 millions d'euros, d'une part, pour garder ses joueurs, et deuxièmement, pour les renforcer, et troisièmement, pour acheter des jeunes joueurs qui ont un gros potentiel. Donc, vous voyez un petit peu le niveau d'investissement qu'on doit avoir. Donc, moi, je peux pas porter de commentaires sur Marseille, même si pendant le confinement, on a entendu Marseille tous les jours, tous les soirs, il est vendu, il est pas vendu, etc. Bon, ça commence à nous fatiguer un peu, personnellement, même si j'adore l'OM. Je voudrais bien que, évidemment, l'OM soit au niveau, évidemment, du PSG ou d'autres clubs. Ça serait très bien pour l'ensemble du football français.
Gervais, un mot, enfin plus qu'un mot maintenant, on a parlé de Marseille, on va parler évidemment de ce qui vous intéresse et ce qui nous rapproche, c'est le Racing Club de Lens qui va monter en Ligue 1. C'est un événement parce que c'est un club qui a quitté la scène, on va dire le devant de la scène il y a maintenant quelques années. C'est toujours très difficile de remonter, on l'a vu, la preuve avec Lens, on le voit avec Auxerre, avec Le Havre, avec Sochaux, des clubs de légende quand même. Quel est votre sentiment, évidemment, à part la joie et un certain soulagement, quel est votre sentiment? Parce qu'il faut perdurer, c'est pas le tout de monter.
Oui, mais je pense que là, on a, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, un actionnaire sérieux, donc qui mouille le maillot et qui sort son carnet de chèque. Il avait mis beaucoup d'argent dans le club, il vient de le transformer en mettant cet argent dans le capital pour avoir des fonds propres qui soient positifs. Donc c'est pas un farfelu, je pense que c'est quelqu'un qui est tombé dans la marmite de Lens, et quand on tombe dans la marmite, on devient vite passionné. Et à partir de là, j'espère d'une part qu'on va se maintenir l'année prochaine, parce que c'est plus difficile de monter en L2 que de se maintenir en L1, mais il faut quand même se maintenir. Mais c'est pas simple, surtout si on joue devant une jauge de spectateurs qui est pas comme celle de Lens, que vous savez très bien, c'est un atout fantastique pour ce club, mais j'espère qu'on va pouvoir revenir, je dirais, dans une place dans les 10 premiers, viser plus haut. Après, bon, on verra comment ça peut se passer, ça dépend de la formation des jeunes qu'on va sortir, mais c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, quand vous retirez les 7 clubs que vous connaissez, qui vont avoir des budgets largement supérieurs à 100 millions d'euros, vous connaissez déjà le classement du championnat pour l'année prochaine.
Eric Silvestre, RTL.
Gervais Martel, vous qui êtes un président, qui avait été un président humain, ce qui se passe aujourd'hui dans ce milieu du foot, alors par exemple là, avec l'arrêt des championnats, évidemment Lens, ça a été profitable puisque Lens était deuxième de Ligue 2, donc Lens a assuré sa montée, mais quand vous mettez à la place d'Ajaccio, de Troyes, de Clermont ou d'Amiens et de Toulouse en Ligue 1 qui voient leur recours repoussé pour une Ligue 1 à 22 clubs, qu'est-ce que vous dites quand même au-delà du, voilà, c'est bien pour Lens, tant mieux, Lens monte, mais pour tous les autres aujourd'hui, le président d'Amiens disait le foot n'a plus aucune humanité. Est-ce que vous regrettez quand même un petit peu ça?
Je le regrette, oui, mais d'un autre côté, moi je me mets à leur place, c'est compliqué, c'est des gens, notamment je pense à Amiens ou d'autres, ou à Olivier Sadran à Toulouse, c'est des gens qui ont investi, qui reçoivent leur denier personnel par rapport au club, et tout d'un coup on siffle la fin de la récréation, et ils sont obligés, on est obligé de prendre en compte une situation qui leur est pas favorable, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Si on se remet dans le contexte où la décision a été prise après l'intervention du Premier ministre, je pense que tout le monde sur le fond était d'accord qu'on arrête le foot. Après, évidemment, on pourrait dire, en regardant ce qui se passe, enfin, moi je regarde pas beaucoup, je sais pas si ça vous intéresse, vous, les matchs avec l'eau, mais moi ça me passionne pas trop. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les autres championnats, écoutez, c'est reparti, mais en France, il y a une décision qui a été prise, et puis derrière, on savait très bien que Noël Legret, le connaissant et sachant, je dirais, la rigueur qu'il a dans l'organisation de ces championnats, que les recours avaient aucune chance d'aboutir. Moi, je regarde ça depuis 2 mois, 3 mois, ces appels, ces saisies de juridiction, et moi, dès le premier jour, je savais très bien que c'était fini. Bon, c'est bien tombé pour l'un, c'est mal tombé pour les autres. Oui. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Mais Gervais, il n'y avait vraiment aucune possibilité de jouer à 22 sur une saison pour aussi, voilà, l'équité sportive. Mais, je ne prends pas parti, hein, je pose vraiment la question de façon neutre. Hein.
Moi, je vous réponds sur l'arrêt des championnats. Jouer à 22, il aurait fallu quand même qu'on modifie nos structures des championnats professionnels, c'est-à-dire sur la L1, sur la L2, voire sur le E national. Après, ça aurait peut-être pu même être faisable, mais vous savez, il n'y a pas plus individualiste qu'un président de club. Donc, quand il prend sa machine à calculer, divisé par 22, c'est pas pareil que divisé par 20. Donc, après, ils ont pris une décision qui, malheureusement, vous avez raison, sur le fond, n'est pas une décision qui est où il y a beaucoup d'humanitaire dans ça. Et je pense que ce temps-là est révolu. Maintenant, on est dans la faute où c'est chacun pour soi. On est toujours d'accord quand il y a des décisions qui sont prises, si elles sont défavorables, surtout si elles touchent le voisin. Mais quand elles nous touchent nous-mêmes, eh ben, on devient égoïste. Ouais.
Mais pourtant,
Philippe Saint-Forche,
vous connaissez Jean-Michel Aulas depuis plus de 30 ans. Il nous dit qu'il a agi au nom de l'intérêt général. Il ne faut pas le croire.
À quel niveau il a agi, Jean-Michel?
Bah, dans ses demandes, dans son souhait, il a agi. On peut pas dire qu'il n'ait pas agi.
Ça, on était sûr. Hein, vous le connaissez bien, je le connais bien aussi. Dès le départ où c'est parti comme ça, on savait qu'on allait avoir du Jean-Michel Aulas en première page tous les jours.
Ça vous a fait sourire ou ça vous a un petit peu agacé? Honnêtement.
Non, je le connais, donc je savais qu'il allait faire ça. Donc aujourd'hui, il a défendu son club, parce que pour l'Olympique Lyonnais, bon, une perte, pas jouer la Champions League, l'arrêt des compétitions, etc. J'espère qu'il y aura un miracle contre la Juve. Mais bon, ça va être une perte qui va être de l'ordre d'à peu près 100 millions d'euros pour son club. Donc 100 millions d'euros, on n'est pas en train de parler de trois figues. Donc je comprends qu'il est maintenant. Après, c'était compliqué, parce qu'à un moment donné, on doit geler le classement. Après, à un moment donné, il a voté au conseil d'administration, à l'assemblée générale, pour dire qu'on devait jouer à 20, ça devait s'arrêter. Donc c'était un peu compliqué. Mais comment voulez-vous qu'une communication?
Il l'a fait pour les amateurs. Hein.
Ouais, mais comment voulez-vous que ce soit pas compliqué quand il y a autant d'argent qui sont en jeu? Le problème du foot, il est devenu celui-là, et c'est pas Denis qui depuis 20 ou 30 ans est aussi dans les méandres du foot. Le football, il a complètement changé. Donc moi, encore une fois, je suis pas critique, je constate certainement ce qui serait passé il y a 15 ans ou 20 ans quand j'étais président du CPF, ou même encore il y a 10 ou 15 ans avec Pape Diouf, avec Louis Nicolin, avec d'autres personnes. On a certainement trouvé une solution pour essayer de sauver un ou deux clubs. Mais maintenant, on est en 2020 et c'est comme ça.
Voilà. Moi, je suis un peu naïf, président Martel, mais je me dis quand même que se cacher derrière des raisons de calendrier, qu'on sait tous que c'est évidemment pas la raison principale et que c'est, comme vous l'avez dit, des raisons économiques pour gagner 10 millions d'euros de plus sur les droits télé, se cacher derrière le calendrier, alors qu'en plus, il y a une compétition en moins l'année prochaine qui est la Coupe de la Ligue, qui, à mon avis, permettait de libérer quelques dates pour jouer à 22, je trouve quand même que c'est petit de la part de président de club qui gère des entreprises, quoi. Enfin, c'est vraiment, moi, je suis extrêmement déçu, quoi.
Moi aussi, je suis déçu parce que derrière, vous verrez que derrière, on va encore organiser beaucoup de matchs amicaux ou des tournois pendant les trêves internationales. Donc, il y avait vraiment une matière pour pouvoir jouer sans que le calendrier pose un trop gros problème. Et on parle toujours de dates, mais il faut arrêter de pleurer. On est toujours en train de pleurer en France parce qu'on va jouer tous les trois jours. Mmh. Bah, écoutez, moi, avec l'expérience que j'ai et le contact que j'ai avec mes joueurs, les joueurs me disaient toujours, c'est super, Prez, on va jouer samedi, on a un match de Coupe d'Europe mercredi, puis on joue samedi prochain. Les joueurs préfèrent jouer. Donc chacun donne des explications qu'il a envie de dire, mais c'est un peu dommage, on aurait pu faire preuve d'une plus grande solidarité au niveau du foot.
Voilà. C'est une question qui revient souvent avec nos invités, parce qu'on forcément on leur pose. Qu'est-ce que vous pensez, Gervais, de ce fonctionnement actuel de la Ligue ? Parce que beaucoup de présidents ne comprennent pas cette Ligue à deux têtes, une Ligue où on sent qu'il y a des mésententes, des désaccords.
Si je vous disais que ça fonctionnait comme sur des roulettes, je pense que vous me diriez, Gervais, disons, qu'est-ce que t'as fumé ce midi, quoi. Donc, c'est le bordel, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, sur 400 comme vous, je suis un peu effaré, quoi. Je suis un peu effaré parce que tout le monde parle en fonction de son club à tort et à travers, alors que les gens sont élus dans des institutions. On a une ligue nationale qui, entre guillemets, fait ce qu'elle peut. On a un syndicat de l'Ain, c'est à mourir de rire. On a l'UCPF qui
se fait. Il y en a deux. Ah
ouais. Ouais, mais justement, qu'est-ce qu'on a? On est le seul pays au monde où il y a deux syndicats pour les clubs. Donc, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se réveillent ou qu'ils prennent du gurusan, les mecs, parce que ça peut pas continuer comme ça. On fait rire toute l'Europe. Et heureusement, on a le Noël Le Graët que j'ai critiqué, moi, à un moment donné, parce que je pensais qu'il n'allait pas tenir le coup, en fonction de son âge, qui est là, qui tape sur la table et qui est là pour battre la mesure et heureusement récupérer dans cette cacophonie qui est invraisemblable, quoi. Il faut que ça change, quoi. Il va y avoir des élections à la Ligue nationale. En fin d'année, il va falloir à un moment donné qu'ils se mettent autour de la table les uns les autres. Il peut y avoir des sujets qui sont compliqués entre les uns et les autres, mais il faut trouver une solution. Encore une fois, je vais pas revenir. Moi, il y a 10 ans, je peux vous assurer, quand j'étais président du CPF ou vice-président de la Ligue, il y avait quelques présidents de club, vous les connaissez aussi bien que moi, hein, qui étaient, je peux vous dire, très charismatiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux vous dire qu'on n'était pas d'accord, on s'engueulait, mais quelquefois, on a signé des conventions, comme la charte 2002 du football entre la L1 et la L2. On l'a signé, on a eu fini à 4h du matin et ça s'est signé. Et derrière, tout le monde était en face, quoi. Mais là, aujourd'hui, tout le monde parle à un moment donné. Il y a des sujets, il y a quand même des gens qui ont des responsabilités et tout le monde va donner son avis sur le sujet. Mais c'est le bordel, qu'est-ce que vous voulez jouer.
Gervais, je vous entends là. On parlait d'un homme fort qui a tapé du poing sur la table et qui est plus que jamais le patron du foot français, c'est Noël Le Graët. Il a aujourd'hui 78 ans. Vous n'avez que 65 ans. Vous connaissez toutes les instances, vous avez été président de syndicat de club, vous avez été à la Ligue OCA, vous avez été à la Fédé, avec l'équipe de France. Ça vous dirait pas d'aller un petit peu tout en haut, remettre un petit peu les choses en ordre?
Écoutez, je suis en train de réfléchir, pour être tout à fait franc, une question précise, réponse précise. Peut-être pour me présenter en tant qu'indépendant, puisque maintenant, même si évidemment Lens reste mon club de cœur, je suis libre de pouvoir me présenter en tant qu'indépendant à la Ligue, mais encore faudrait-il, je dirais, qu'il y ait l'assentiment de des gens pour m'élire premier point. Et puis moi, si j'y vais là-bas, c'est pas pour faire des claquettes et rien dire, vous comprenez bien le truc.
Donc, si je ne m'abuse, le Collège des Indépendants, c'est de là qu'on élit le président ou la présidente.
Oui, mais c'est là, vous êtes en train de gagner un 110 mètres haut en sautant la dernière haie avant de faire le casser sur la ligne. Non, mais c'est pas mon objectif, ça. Mais si je peux aider le foot, je vais essayer de le faire. Mais si je sens aujourd'hui que c'est pas possible, parce que justement on est parti sur des systèmes d'ego, quand aujourd'hui, regardez, je vous donne un exemple. Ils sont en train de discuter sur ce qu'on donne comme argent au club de Ligue 2. Ils sont en train de pinailler pour donner 10, 20 millions en plus au club de Ligue 2, alors qu'au départ, il y avait une charte qui était signée. La L2 devait avoir un pourcentage des sommes totales de télé. Ils sont en train de discuter. On parle de gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire, la gouvernance? La gouvernance, aujourd'hui, elle appartient au président de club, puisqu'ils sont majoritaires sur la décision économique. Ils sont majoritaires au conseil d'administration. Donc, c'est pas un problème de gouvernance. C'est un problème, aujourd'hui, de discussion de gros sous. Alors que tout le monde oublie que dans le foot français, aujourd'hui, sur 40 clubs qui sont en L1 et en L2, pour moi, il y en a minimum 30 qui peuvent se retrouver en L2, c'est-à-dire les 22 L2 et ceux qui sont entre 10 et 20 en L1. C'est-à-dire que potentiellement, il y a 30 clubs qui peuvent jouer en L2 demain matin. Donc c'est important qu'on puisse avoir un soutien et d'avoir un football qui soit fort, pas seulement avec l'Olympique de Marseille qui serait racheté par Pierre-Paul Jacques, mais aussi par tous les clubs, et notamment les clubs de L2 qui ont besoin aussi de survivre. Et sans ça, il y a pas moyen de trouver un accord. Je trouve ça quand même déplorable.
Le niveau, Gervais Martel, du foot français est en baisse?
À quel niveau?
Niveau du jeu, niveau sportif, niveau du spectacle?
Bah, il faudrait qu'on ait une ou deux équipes en plus du PSG, parce que le PSG, bon, il est quand même qualifié. Bon, l'Olympique Lyonnais, j'espère qu'il va le faire, mais ça va pas être une promenade de santé contre la Juve. Derrière, il y a certainement des clubs qui vont surgir. Le Gat Nice, bon, il a pas les poches trouées, d'après ce que j'ai compris.
Non.
Mais je pense qu'il va mettre un petit peu de pépette dans l'affaire. Il est en train déjà de le faire. Bon, derrière, il y a...
Et sans fanfaronner, en plus.
Oui, sans fanfaronner, exactement. Bon, il va d'abord gagner le Tour de France, puis après, il va passer au club. Et donc, là, il y a l'Olympique Lyonnais, il faut faire confiance à Jean-Michel. Hein, Jean-Michel, quand même, il est quasiment bon, quelquefois, bien sûr. Mais quand on regarde le palmarès de Lyon, c'est une présence sans arrêter en Coupe d'Europe depuis 20-25 ans. Mais c'est incroyable, quoi. Donc, l'Olympique Lyonnais devrait revenir au plus haut niveau. Puis après, il y a des clubs qui sont en train de continuer, comme Lille. Même si le mode de gestion de Lille, c'est pas ma tasse de thé. Ensuite, Bordeaux va bien finir par se réveiller.
Le Stade Rennais aussi, qui prépare un gros projet.
Et le Stade Rennais, qui maintenant est dans une continuité de pouvoir jouer, je dirais, le très haut niveau, c'est-à-dire viser les trois premières places. Donc, aujourd'hui, on a quand même Monaco qui va bien finir quand même avec tous les avantages qu'il peut avoir à nous ressortir quand même une année qui soit cohérente. Ça veut dire qu'il y a 6 ou 7 clubs qui peuvent donner un championnat attrayant et avoir une représentativité du foot français sur l'Europe. Moi, je suis assez optimiste, mais il faut pas oublier que le foot français, c'est pas seulement PSG et 3 clubs. Le foot français, c'est une entité. C'est pour ça que les gens vont au stade, même pour voir des matchs. Quand l'équipe va descendre, c'est pour ça que les gens vont au stade, parce qu'il y a un enjeu dans les difficultés, un enjeu dans les choses positives. Et ça, il faut jamais l'oublier, sinon on va finir comme les Romains, ça c'est clair et net.
Pour ça, faut aussi qu'on puisse conserver les meilleurs talents au moins 2 ou 3 saisons, qu'on ait le temps de les voir éclore, monter en puissance. Cet été, il s'annonce compliqué. Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on parvienne enfin, même les gros clubs, même Lyon, même Paris, n'arrivent pas à garder leurs petites pépites qui sortent des centres de formation?
Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, comme il y a des règlements qui changent et que maintenant les gens peuvent se barrer au moment justement de signer leur premier contrat professionnel ou dans les renouvellements de contrat, on n'arrive pas à faire face par rapport aux salaires qui sont proposés pour des gamins qui ont pas encore joué 2 ou 3 matchs en équipe première. Donc ça, c'est un gros problème, parce que on revient toujours aux mêmes histoires. Alors, je vais pas faire pleurer les gens sur le football. Les gens ont d'autres soucis que de s'apesantir sur le football, mais on a toujours des problèmes de d'anti-concurrence avec d'autres grands pays européens sur les notions de charges, sur les notions aujourd'hui de droit d'image qu'on a supprimé. Donc c'est extrêmement compliqué pour les garder. Et puis derrière, il y a aussi des clubs qui sont contents de céder leurs jeunes pour pouvoir remettre leur trésorerie à flot. Donc c'est ça qui est emmerdant, parce que tout à l'heure vous me posez une question de dire mais le foot français, est-ce qu'on n'est pas en train de s'appauvrir, etc., alors qu'on est jusqu'à preuve du contraire champion du monde, alors qu'on a aujourd'hui le plus de joueurs français, jeunes français, qui partent à l'étranger avec plus ou moins de succès, je vous le conseille.
Ah, mais le problème, c'est qu'ils partent.
Le problème, c'est qu'ils partent. Donc il faudra bien qu'on réfléchisse à une économie ou une stratégie qui soit là pour les garder, avec l'aide aussi peut-être du syndicat des joueurs.
Ouais, mais on les laisse partir aussi, Gervais Martel, dans certains cas, parce que autant Kouassi, par exemple, le PSG a tout fait pour le retenir et il a préféré aller au Bayern Munich. Mais moi, je prends l'exemple de Lyon. Jean-Michel Aulas nous dit à longueur d'année, Lyon, les formations, les jeunes, etc. Mais combien Lyon garde de jeunes? Là, Guiri encore, il va partir, il va aller à Nice, ou il va aller je sais pas où.
Kaloulou.
Avant, ça a été le cas. Pareil, Martial, il a été vendu parce qu'il a fallu équilibrer les comptes avant le 30 juin, 5 millions à Monaco il y a quelques années. À part peut-être Cherki, là, qui va peut-être enchaîner une deuxième saison. Lyon, ils font sortir un jeune 10 matchs et ils le vendent tout de suite après. Et ils le vendent évidemment pas cher puisqu'il vient à peine d'éclore. Pourquoi un gars comme Guiri, il peut pas faire une saison de plus?
Il y a quand même des contre-exemples. Hein. Il y a eu Awar, il y a Awar qui. Mais...
Voilà, il y avait pas tu vois, quand avoir, tu prends,
aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, excusez-moi, on a une frilosité aujourd'hui pour incorporer plusieurs jeunes en même temps dans l'année, parce qu'il y a tellement un impératif de résultats, c'est compliqué. Quand on regarde, c'est vrai, à contrario, à Paris, il y a presque pas de jeunes, ou je ne sais même pas s'il y en a un qui a été formé au club. À Lille, il n'y en a aucun qui joue dans l'équipe qui aurait été formé au club. Donc c'est très compliqué. On n'a pas une culture en France comme Salzbourg Red Bull ou comme Leipzig, par exemple, en Allemagne, hein, qui aujourd'hui ont une politique de jeunes. Ils sortent des jeunes et ça les empêche pas de jouer en Champions League. Donc c'est vrai, vous avez raison. Mais Lyon, c'est quand même pas... on ne peut pas dire que Lyon a cédé tous ces jeunes, il le fait certainement pour des questions
pour équilibrer
peut-être un peu plus maintenant.
Gervais, juste, on est pris par le temps. Je voulais une dernière question parce que Lens, c'est les supporters. On s'aperçoit qu'il y a eu une commission parlementaire ces derniers temps pour remettre un petit peu les supporters, leur redonner un petit peu plus de souffle, qu'ils puissent se déplacer, qu'ils aient toute leur place dans le stade. Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est toujours primordial, la place du public et des supporters au sein du stade?
Bah écoutez, je vais être franc avec vous. C'est pas primordial, c'est vital. Vital aujourd'hui qu'on puisse avoir, qu'on retrouve un football de plaisir. Un football de plaisir se fait aussi grâce aux tribunes. Mais aujourd'hui, on peut pas continuer sans arrêt d'avoir des interdictions à tour de bras, ou des fois, on n'arrive même pas à comprendre pourquoi c'est interdit, avec des histoires qui remontent il y a 4-5 ans. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Par contre, il faut qu'on sanctionne, évidemment, quand il y a des débordements. Mais si aujourd'hui, on oublie le public, pas seulement pour l'Ange, parce que l'ensemble du football français, on ferait une erreur stratégique pour l'avenir. Donc c'est bien que les pouvoirs publics sont en train de se dire de ça, même si, je suis désolé, mais ça me gêne un peu de voir un ou deux députés qui font les malins en disant vous allez voir ce que vous allez voir et on va remettre les fumigènes dans les stades. Mais je sais pas. Je crois que aujourd'hui faire des effets d'annonce c'est bien sur des moments qui sont électoraux, mais prendre conscience de ce qui peut se passer sur des terrains, etc. Moi je pense qu'on verra jamais l'autorisation des fumigènes. C'est une interdiction européenne et ça peut créer un grand danger. Comment vous voulez-vous qu'on arrive à cerner une partie de la tribune où les gens auraient le droit de s'amuser avec des cailloux, avec des fumigènes et d'allumer des pétards? C'est juste impossible. Mais pour le reste, il faut qu'on arrive à retrouver un foot avec du public. C'est essentiel. Le public, c'est ça qui nous donne la chair de poule. C'est ça qui nous fait vibrer dans les moments forts, dans les moments qui sont difficiles. Et c'est impératif qu'on trouve des solutions très vite
pour la Merci Gervais Martel d'avoir été avec nous. En vous entendant, évidemment, on salue la mémoire de Daniel Gervais Leclerc, qui a disparu cette saison et qui était aussi un grand du Racing Club de Lens. Merci encore. Merci encore Gervais Martel. À bientôt.
RTL, on refait le match.
Pierre, 60. La politique d'abord. Demain, c'est le second tour des municipales dans près de 5000 communes. Tout a été fait pour tenter de rassurer les 16,5 millions d'électeurs. Pas plus de 3 dans un même bureau de vote. Demain, le port du masque sera obligatoire. Il vous sera fourni, d'ailleurs, si jamais vous l'oubliez. Au premier tour, le 15 mars dernier, alors que le pays s'apprêtait à se confiner, le taux d'abstention avait été de 55%, un niveau record. Un mois après la mort de George Floyd, toutes les manifestations antiracistes qui se sont multipliés à travers le monde continuent d'avoir des conséquences bien au-delà d'ailleurs du mouvement initial. Exemple, le groupe L'Oréal annonce qu'il va retirer de ses slogans publicitaires ou de ses packaging des mots comme blanchissant qui sont adossés à certaines crèmes de beauté et qui sont aujourd'hui jugés stigmatisants par certains. Le groupe Coca-Cola de son côté annonce qu'il ne fera plus de publicité sur les réseaux sociaux pour au moins 30 jours, estimant là encore sous la pression de l'opinion publique que ces réseaux ne contrôlent pas assez les messages qui y sont publiés. D'autres grands annonceurs ont décidé de faire pareil. Et dans ce contexte, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé hier que désormais, les messages racistes seraient retirés et que certaines publications, notamment politiques, quand elles seront jugées controversées, pourraient être accompagnées de messages d'avertissement. 6 personnes ont été interpellées et écrouées dans le cadre de l'enquête sur le vol de l'œuvre attribuée à Banksy, peinte sur une porte du Bataclan et qui avait été volée en 2019. L'œuvre avait été retrouvée en Italie. Bien, cette semaine, ce sont les policiers français qui ont mené un coup de filet en Isère et en Haute-Savoie. Deux personnes sont mises en examen pour vol, les quatre autres pour recel. Cette œuvre de Banksy représente une femme triste, peinte donc sur la porte en hommage aux victimes du 13 novembre 2015. Attention au relâchement face au coronavirus. L'épidémie est toujours considérée comme étant sous contrôle en Europe, même si on voit que le nombre de contaminations augmente avec le respect un peu moins strict ces derniers temps des gestes barrières. En Amérique du Sud, en revanche, la situation est bien plus inquiétante. En Argentine, les autorités reconfinent la capitale Buenos Aires face à l'explosion du nombre de cas. Dans le sud des États-Unis, la situation est également jugée plutôt alarmante. Le Texas a décidé de fermer ses bars. La Floride, de son côté, interdit désormais toute vente d'alcool. Les résultats du quintet qui se courait aujourd'hui à Enghien-Soisy, il fallait jouer le 11, le 8, l'As, le 14 et le 9. Et puis un mot de météo, elle sera ensoleillée demain pour les régions méditerranéennes et également sur l'extrême nord du pays, sur le Cotentin. Partout ailleurs, ce sera un peu plus mitigé. Et les températures demain matin, comprises entre 12 et 20 degrés. Voilà pour l'actu, Denis.
Merci beaucoup, Olivier. Très bonne soirée à vous. Très bonne soirée à vous tous sur RTL. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h pour parler football. Bien sûr, on refait le match avec Raymond Abou, Baptiste Després du Figaro, Philippe Sanfauche avec Sylvestre. Nous allons parler longuement de l'Olympique de Marseille. Et puis, petit à petit, nous rejoindrons jusqu'à 20h nos chroniqueurs qui ont fait cette saison avec vous, qui développeront leurs thèmes, les thèmes qui leur sont chers, qu'ils ont choisis ce soir pour en parler, mais pas trop longuement. On va essayer d'être disciplinés. Ça va être difficile, mais on va y arriver. Vous allez voir. Bonne soirée.
RTL, on refait le match.
Ils ont la passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous. Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL et puis Baptiste Després du Figaro qui est avec nous. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir, Denis, bonsoir.
Grand plaisir de vous retrouver autour
très
de cette table.
Très content aussi.
Et puis Raymond Abou, bien sûr qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, bien bronzé.
J'étais en Covid moi, j'étais confiné. Mais je suis content d'être revenu vraiment, ça manque quand même le foot. Hein. On critiquait les Angers, Brest, les Toulouse, Toulouse-Nîmes. Et je veux des Toulouse-Nîmes. Rendez-moi la VAR, rendez-moi les erreurs d'arbitrage, rendez-moi un but qui est pas validé, rendez-moi un entraîneur qui s'énerve. Et l'important, c'est les 3 points. Rendez-moi ces interviews de joueurs. Ça me manque, les joueurs. On a fait match nul, on n'a pas perdu. Oui, rendez-moi ça, j'en veux.
Alors, petite Marseille, t'as piqué la veste de Dimitri Payet, non?
Oui, parce que j'ai vu qu'il avait baissé son salaire. J'ai dit, si tu t'en sers plus, je te la récupère. Eh ouais. Il m'a dit, je te fais un prime, là, laisse ça à 30 euros, parce que comme il est un peu ricrac, notre Dimitri, en ce moment.
Pendant que vous y êtes, Raymond Abou, qu'est-ce que vous avez pensé des propos de Gervais Martel?
J'ai adoré. Sincèrement, j'ai bu ses paroles.
Président
sur la
à l'ancienne.
J'ai adoré. J'ai trouvé vos questions très pertinentes à toutes. Celle de Philippe sur
On sent qu'il revient. Hein,
non, mais celle de Philippe sur la ligue. Non, mais moi, je suis content.
Tu sais, t'as pas signé la prolongation de contrat.
Il prépare la saison prochaine.
Il prépare la saison prochaine.
Il est en prolongation. Il joue tout.
T'as pas vu son maître depuis longtemps. Il ouvre la porte partout. Tu sais pas ce qu'il fait. Il renifle tout le monde. Je vous adore. Et pardon, j'ai bu les paroles. J'ai adoré la question de Philippe sur la ligue. Les ambitions sur la ligue. La formation, il a parlé de la formation et pour moi ce qu'il a dit d'essentiel, les fumigènes, c'est très important ce qu'il a dit sur les fumigènes. On vote pas comme ça des trucs pour faire de la démagogie avant les élections. Après il y a les mecs sur le terrain qui vont devoir gérer ça, les fumigènes ça se gère. Bon, c'est tout, je peux y aller?
Non, pas encore. Baptiste Després du Figaro.
Je trouve qu'il a une vraie liberté de parole. On sent le sage. Vous disiez, Denis, les présidents à l'ancienne, c'est typiquement ça. Et je rejoins à Raymond sur la question de Philippe, sur le côté ligue. Il se cache pas. Il dit clairement que lui, il est intéressé par le poste. Et aujourd'hui, c'est quand même dans le climat actuel, c'est important. Et Gervais Martel, c'est pas n'importe qui dans le monde du football français. Il a marqué l'histoire dans les années 90, voire un peu plus, avec Lens. Mais non, c'était ultra intéressant. Oui, sur les fumigènes, même sur la gestion du foot actuellement. Sur la Ligue, le petit tacle à Jean-Michel Aulas, on va en parler tout à l'heure de Marseille, ça commence un petit peu à l'agacer. Enfin, une vraie liberté de parole, plutôt calme, posée, c'était intéressant.
Baptiste Durieux, qu'est-ce qu'ont pensé les auditeurs justement de l'intervention que j'ai trouvée moins brillante et vraiment, voilà, c'est toujours sympa d'entendre ces présidents qui ont pas la langue de bois, Gervais Martel, donc par rapport aux auditeurs.
On va commencer avec un auditeur assez nostalgique, Samuel, qui écrit « Gervais Martel m'a touché quand il parle d'humanité, de Louis Nicolin, de Pape Diouf. Effectivement, on se rend compte que le football a changé et que la même histoire aurait été peut-être gérée différemment il y a quelques années en arrière. » Et puis aussi des supporters lensois comme Bertrand. Les propos de Gervais Martel sur l'actionnaire sont vraiment rassurants, mais comme il le dit si bien, sans public, pas d'émotion, pas d'ADN, et ce sera déterminant dans la saison du RC Lens. Et puis il rajoute « Merci pour la petite punchline sur les politiques et les fumigènes. » Voilà tous vos messages sur le @ RTL Foot sur Twitter.
Alors messieurs, on va passer maintenant à Marseille, hein, parce que c'est quand même le gros dossier avant de retrouver les consultants, les chroniqueurs qui ont fait la saison et de développer un petit peu ce qu'ils ont envie de dire par rapport à cette saison, qui a été particulière, qui a été bizarre, mais qui a quand même eu des moments d'émotion importants. Par rapport à Marseille, donc Marseille, Mourad Boudjelal, Philippe Sansfourche, l'ancien président du RCT, qui se dit missionné par un homme d'affaires, bon, on a les noms, on a tout ce qu'il faut comme information, pour racheter l'Olympique de Marseille. Seulement voilà, Jacques-Henri Hérault tout à l'heure fait une conférence de presse et nous dit et nous répète encore que l'OM n'est pas à vendre. Philippe Sansfourche.
Oui, alors moi je vais surtout rapporter ce que j'ai entendu aujourd'hui, parce qu'après j'aimerais bien que Baptiste, qui est avec nous, on a la chance de l'avoir aujourd'hui, et le Figaro était en pointe sur cette information depuis 48 heures. Donc il va pouvoir peut-être nous rappeler l'essentiel de ce projet et de ce qu'on peut en attendre s'il est réel et s'il peut voir le jour dans les semaines, dans les mois à venir. Mais la précision du jour, donc c'est une conférence de presse qui a été organisée par l'Olympique de Marseille, dans laquelle on a vu à la fois Dimitri Payet et Jacques-Henri Hérault. Alors, un vrai contre-feu là pour le coup, puisqu'ils arrivent avec une annonce, la prolongation de contrat de Dimitri Payet jusqu'en 2024 et une baisse de salaire substantielle pour montrer que le joueur a parfaitement compris que la nécessité de faire des efforts. Alors on aura l'occasion d'en reparler parce que ça peut aussi être interprété autrement, mais en tout cas c'est une façon de montrer que l'actionnaire aujourd'hui est toujours là. Jacques Henriot a balayé en 40 secondes, il y avait 50 minutes je crois de conférence de presse, en 50 secondes, il a balayé cette information qui a fait la une toute la journée hier. Donc pour lui, le club est stabilisé avec un actionnaire fort. Évidemment, c'est peut-être aussi une tactique pour attendre, faire monter les enchères. Enfin, ça, on aura l'occasion d'en reparler.
Alors, Baptiste Després, justement, le Figaro qui a été à la pointe de cette information. Qu'en est-il, Mourad Boudjelal, qui était sur le point d'être président de Toulon?
De Toulon, aussi de Marseille en voilà, National 2, National 3, c'est assez complexe. Parce
il faut débrider le dossier parce qu'il...
C'est ultra complexe. Déjà, Mourad Boudjelal, c'est
quand même une personne
qui compte au sein du sport français, alors du rugby bien entendu, du football, il n'existe pas du tout dans le monde du football, mais c'est une personnalité atypique. C'est quelqu'un qui a quand même été mis de côté au RC Toulon, qui a laissé sa place parce qu'il y a eu des difficultés financières. Il est arrivé il y a quelques années, c'est quelqu'un qui a déboussiéré le monde du rugby, qui a révolutionné aussi, qui a mis sa patte, qui a eu des titres, qui a été triple champion d'Europe, champion de France, etc. Et là aujourd'hui, il a envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Alors, il a été contacté, il a été missionné par des investisseurs étrangers du Moyen-Orient, et justement sur ce projet-là, ce projet est réel. Alors maintenant, il a ouvert la boîte à fantasmes aussi, Mourad Boudjelal, avec sa faconde, avec sa façon de parler, sa façon de se présenter. Hier, on en discutait tout à l'heure avec Philippe. Il fait quand même une conférence de presse improvisée au sein du Sporting Club de Toulon, club avec lequel il devait être président. Pas actionnaire majoritaire, mais président. Donc, il ramenait pas son argent vraiment personnel. Et il a donc fait une conférence de presse en disant qu'il était mandaté pour racheter l'OM. Nous, au Figaro, notamment via notre correspondant, la Mathias Merlot, dans le sud de la France, on a eu ce chiffre-là, comme quoi cette offre comprenait était plutôt évaluée à un montant de 700 millions d'euros à peu près.
D'accord.
700 millions d'euros, ça comprend quoi? Ça comprend 300 millions pour acheter Marseille, 200 millions pour épurer les dettes et 200 millions pour le mercato. Après, est-ce que ça se fera? Ça se fera pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, Mourad Boudjelal, oui, c'est pas un projet farfelu.
Ah d'accord, pour vous, c'est pas un coup de pub, c'est pas. Mais pourquoi?
Non, c'est pas un coup de pub. Après, il joue aussi sa réputation et sa crédibilité. Il peut pas avancer comme ça en disant je veux racheter l'Olympique de Marseille et derrière arriver avec trois cailloux et deux bonbons. C'est impossible. En revanche, il y a un côté où je pense qu'il a minimisé l'impact du football, l'impact des médias, l'impact des supporters, l'impact de l'environnement à Marseille. Il le dit lui-même, ça lui fait peur. Mais là-dessus, c'est quand même assez concret. Maintenant, est-ce que ça se fera? C'est autre chose. Gervais Martel était agacé là-dessus sur le côté Moyen-Orient et compagnie, mais c'est quelque chose.
Le côté très public, le côté très voilà.
Vous n'allez pas le changer. Oui. C'est ce qu'il faut aussi sur ça. C'est aussi pour une des raisons pour laquelle il a été approché pour être missionné sur ce projet-là. Maintenant, on verra bien comment ça se passe, mais en tout cas, c'est enclenché.
Raymond Abou.
Bah, moi, pointu que Baptiste, parce que moi, je suis pas dans les sphères, mais j'entends des 300, des 700 millions, des 800 millions. Moi, j'ai aussi entendu que, avec les partisans de ceux qui s'occupaient du Moyen-Orient pour racheter, ils disent aussi qu'ils ont pas beaucoup de liens avec Mourad Boudjelal. J'ai peur, moi, qu'au final, je fais attention à l'affaire Kashkar. Le dernier qui est venu, c'était un Canadien, je sais pas qui c'était.
Oui.
Il est venu, il a dit, je rachète l'OM. C'est bon, c'était fait. On a dit, youpi, l'OM est racheté. On l'a jamais revu. Il est venu une fois au Vélodrome, et le mec, on l'a jamais revu. Mourad Boudjelal, Bilal, on connaît, c'est un tempérament de feu. C'est alors que, qu'il n'ait pas maîtrisé les médias, je pense pas. Je pense qu'il est, il a maîtrisé aussi, parce qu'il fait aussi de la radio. C'est un homme de médias aussi. Il a fait des bonnes choses à Toulon. Maintenant, le mélange des genres, de passer du rugby au football et de jouer un peu avec l'Olympique de Marseille. On a Jacques-Henri Hérault, le président, qui dit non, l'OM n'est pas à vendre. Normal, lui, il veut garder sa place, et c'est ce que disait Philippe. On est peut-être en train de jouer au jeu des enchères. Moi, de l'extérieur, comme ça, de loin, je me dis que ils sont peut-être en train de jouer avec Marseille, et comme tu dis, faut pas y aller avec 2-3 cailloux, faut vraiment aller pour de vrai. Et je rejoins Gervais Martel. Je pense que si ça avait été sérieux, il l'aurait peut-être fait en silence.
Ouais, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure sur la...
Peut-être qu'ils n'auraient pas chanté aussi fort.
Mmh. Eric Silvestro.
Après, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas sérieux. Pour le coup, on n'a pas encore l'information, ouais, ouais. On verra. Qu'est-ce qui est mieux pour l'Olympique de Marseille? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Il faudra étudier les dossiers. Mais d'un côté, on a peut-être, je dis bien peut-être, une reprise avec énormément d'argent, avec un grand état derrière. On a vu ce que ça a donné quand même au Paris Saint-Germain. Et ça peut faire rêver les supporters de l'OM, tout en étant prudent. De l'autre.
C'est vrai, parce que pendant 10 ans, ça ne les a pas fait rêver. Bah,
tu sais très bien.
C'était plutôt une appellation.
Tu sais très bien qu'ils attendaient particulièrement un autre état qui vienne concurrencer les Qataris.
Ah, c'est marrant, c'est pas ce que j'ai entendu.
Faire des banderoles, hein.
Mais
l'argent.
De notre côté, tu as un président, Jacques-Henri Hérault, qui aujourd'hui arrive pour faire une annonce, dire l'OM n'est pas à vendre. Ok, très bien. Ouais. Et l'OM est dans son projet, son grand projet, dans la continuité de son
c'est
projet.
Le dire aujourd'hui.
Bon, très bien. Donc là, le projet de l'OM depuis 2 ans, c'est 190 millions de pertes.
Une finale.
Donc on une finale de quoi?
Ils ont fait l'Europa League.
Oui, mais ils sont combien de pertes? 180, oui, plus de 180 millions de pertes. Ok. L'autre annonce forte du jour, et c'est vrai qu'elle est importante dans le contexte, c'est la prolongation de Dimitri Payet avec réduction de 50% de son salaire sur la première saison.
Ouais.
En termes d'ambition, alors c'est très bien, c'est bien mené, c'est bien expliqué.
Je suis d'accord. C'est pas
mais en termes d'ambition. Sportif.
En termes d'ambition, tu gardes ton capitaine.
Mais quel message tu envoies en termes d'ambition sportive?
Tu gardes un joueur
en
important.
En disant, nous à l'OM, non, c'est 50% de réduction sur tous les joueurs et on va prolonger pendant 4 ans un joueur qui va avoir 37 ans. Certes, il aura été payé moins cher, mais il aura 37 ans.
Oui,
donc, mais je te dis pas,
dans,
c'est bien
dans
mené.
Dans l'immédiat, tu gardes ton capitaine.
Pour un président qui a des dettes, c'est bien mené, mais pour l'avenir sportif de l'OM, je suis pas sûr que ce soit un message extrêmement encourageant.
On va se quitter pendant quelques secondes et on reparlera bien sûr de l'Olympique de Marseille. Gros dossier ce soir dans Refait le match, Marseille à vendre ou pas. Preneur ou non, Baptiste Després du Figaro et là, Raymond Abou, Eric Silvestro, Philippe Sanfourche d'RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur RTL. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
.fr. RTL. Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Jusqu'à 20h, Raymond Abou, Baptiste Després du Figaro, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche, nous parlions du manque d'ambition finalement, Eric Silvestro, de cet OM, de faire re-signer, de faire prolonger Dimitri Payet jusqu'en 2024.
Non mais faire prolonger Dimitri Payet, aujourd'hui l'OM a quasiment pas de moyens. Il doit vendre pour 60 millions et ils auront très peu pour recruter. Donc prolonger ton capitaine en annonçant en plus aux supporters qu'un garçon qui gagne 500 000 euros par mois va en gagner que 250 l'année prochaine et que c'est le capitaine et que Villas-Boas veut s'appuyer sur lui, en termes de com, c'est pas mal. Moi, je vais juste au-delà de la com et je me dis, tu vas recruter des joueurs en leur disant, alors chez nous, vous avez vu, notre capitaine, il a baissé son salaire de 50%. Je vois pas comment tu vas attirer des joueurs. Tu vois, je me dis, ok, là, à court terme, très bien, pour l'effet d'annonce et tout, très bien. Mais l'OM, il est où le projet il est où le projet et sportif
non, et ce que je comprends pas dans votre raisonnement, c'est que vous ironisez un petit peu sur le fait que Payet accepte de baisser son salaire de 50%, ce qui même si c'est un gros salaire, c'est quand même.
C'est Gérard Majax, Jacques-Henri Hérault.
Non mais
il nous fait un coup de magicien.
Non mais je suis d'accord avec vous qu'il vous fait.
Ça tombe
fait
parfaitement
tout,
dans l'air.
Il a 33 ans, Dimitri Payet.
D'accord, mais si tu vends Payet, les supporters te disent bah voilà, ça y est, le capitaine s'en va, ça part à volant.
Mais Denis, en fait, il reprend 2 ans de contrat supplémentaire. Donc en fait, il étire sur 4 ans. Et qu'est-ce que nous dit Jacques-Henri Hérault? Qu'effectivement, il y a une baisse de 50% sur la première année, de 30% sur la
33,
deuxième,
ouais.
Et globalement de 40 à 60% sur les 2 dernières années. Dimitri Payet, il va arriver, s'il va au terme de ce contrat, il aura 37 ans. 37. Vous me rappelez son poste, Dimitri Payet? Il est défenseur central?
Non.
Bon, vous
non.
pensez vraiment qu'il
un
va animer en Ligue des Champions à 37
un
ans?
Un poste d'intensité.
Bon, en gros, il sécurise sa fin de carrière. C'est-à-dire que s'il a une blessure importante ou quelque chose comme ça, il sait qu'il a ses 4 ans de contrat, il est bien à Marseille, il a sa famille qui est là. En plus, derrière, ils sont en train de parler d'une possibilité au sein du staff de reconversion. Ça, bon, c'est toujours un peu illusoire. Enfin, on ne sait pas. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Mais simplement, c'est un deal intelligent, entre les deux parties. Mmh. Et ça nous est présenté comme un geste
le
du cœur absolument fantastique. Bon, c'est très bien. Parce que ça, pour lui, ça sécurise. Et pour l'OM, effectivement, sur les deux saisons à venir, ça permet d'alléger un peu les charges et les contrats.
C'est trop facile de la part de Jocan Hérault de dire l'OM n'est pas à vendre, l'OM n'a jamais été à vendre, l'OM est dans les clous, l'OM est dans les rails de son projet.
Ils y sont pas,
non, mais
c'est sûr.
Dans les rails de son projet qu'on mène depuis deux ans. Le projet pour l'instant c'est le mur et c'est 180 millions d'euros. D'accord.
Il va pas vous dire Boudjelal va venir. Si Boudjelal il vient, il fait quoi, Hérault? Qu'est-ce qu'il devient?
Bah, c'est merci, au revoir.
Ah bah lui, évidemment, voilà, il sort son poste.
C'est merci, au revoir. Donc, il est bien obligé de dire l'OM n'est pas à vendre.
Il prend le PC, le PowerPoint.
Il est obligé de prendre
un. Demain, McCourt dit officiellement l'OM n'est pas à vendre.
On en reparlera.
Voilà.
Baptiste Desprez,
je suis d'accord avec Philippe Eric là-dessus. En termes de com, c'est bien senti. En plus, c'est dans l'air du temps. Il baisse son salaire. Il gagne 500 000 euros par mois, Dimitri Payet. Ouais. Donc, effectivement, tu fais le calcul. C'est intéressant. Et puis, c'est un poil démagogique. Mais après, en termes d'ambition sportive, le message que vous renvoyez, je suis d'accord avec Eric. Moi, je le comprends pas. Alors oui, on sécurise le capitaine, le meneur de jeu. Mais derrière, le message que tu renvoies pour le mercato à venir, etc. Là-dessus, j'ai plus de doutes.
Je rappelle aussi qu'il y a quelques jours, le président a lâché qu'ils étaient prêts à lâcher Kevin Strootman gratuitement pour s'économiser un très gros salaire. Mm. Ce même joueur qu'ils ont fait venir pour 25 millions d'euros. Donc moi, je veux bien la gestion du club. Mm. J'espère bah,
la
pour eux qu'ils vont rebondir.
Strootman et de Payet est un peu différent.
Non, mais je suis d'accord, mais tu dis quand même, j'ai tellement ce gros salaire sur les bras que je préfère le laisser pour zéro alors que j'ai payé 25 millions plus 500 000 euros de salaire pendant deux ans.
N'oubliez pas que le fair play financier il est tombé de manière radicale il y a une semaine de cela et que les choses, elles sont très claires. C'est soit équilibre l'été prochain, soit ciao bingo, plus de Coupe d'Europe, plus rien et les coupes sombres. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut sortir de l'effectif 60 millions d'euros cet été. Il faut faire 60 millions d'euros de vente. Donc vous cherchez comme vous voulez, mais le mercato, ça ne va pas être du recrutement, ça va être perdre des joueurs.
Mais donc pour vous tous, Baptiste Desprez, le figure pour vous tous, Marseille donc, est à vendre.
Évidemment.
Honnêtement, bien sûr que Marseille est à vendre. Alors, ils peuvent pas le dire aujourd'hui. Jacques Hérault, il est en conférence de presse cet après-midi. La journée d'hier avec Boudjelal qui sort un peu de nulle part entre guillemets par rapport à Marseille, il est obligé d'avoir cette posture-là. Il est obligé de dire non, c'est pas à vendre. En plus, il a évacué. Ça a duré 30 secondes. Hein. Mmh. C'était terminé. Hop, c'est un démenti. Et puis on passe à autre chose. Et ils avaient prévu leur coup. Ils avaient prévu Payet comme ça qui arrive avec le maillot 2024, Marseillais à vie. Tout ça, c'est de la communication. Donc oui, Marseille est à vendre. Après, est-ce que ce sera ce projet-là, là-dessus, personne ne le sait, mais en tout cas, il y a des gens qui sont intéressés. Après, c'était Raymond qui disait ça, notamment sur le côté pourquoi Boudjelal est sorti, pourquoi il a parlé de ces. Lui, il ne parle pas vraiment de ces sommes-là, mais il parle de ce projet-là parce qu'il y a différents aussi, il y a d'autres investisseurs qui sont intéressés par Marseille. Marseille, ça reste quand même une vitrine, ça reste quand même un club qui est ultra attractif. Ils sont quand même en Ligue des Champions, ils ont fait une finale de Ligue Europa il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, en France, derrière le Paris Saint-Germain, si vous devez racheter un club, pour avoir parce une vitrine, que c'est l'Olympique de Marseille.
C'est une marque. Ouais. C'est une marque. On le sait tous, la puissance de la marque OM. Et si sportivement, même si cette année ça a réussi en championnat, et tant mieux pour eux, c'est plus difficile depuis quelques temps. Le club est pas si mal structuré, notamment en termes de numérique, en termes de digital, en termes d'évolution, en termes de marque OM. Il y a eu énormément de choses de fait. Et si derrière t'arrives avec des moyens, que tu t'appuies sur une grosse marque et qu'en plus tu as les outils digitaux numériques pour avancer, ça peut être intéressant pour plein de monde, pour plein d'investisseurs.
Et les puristes, Raymond Abou, il en reste quelques-uns qui un petit peu son renacle à ce que des investisseurs du Moyen-Orient, par exemple, viennent investir à l'OM.
C'est vrai, on parlait des banderoles au stade. Et longtemps, les supporters marseillais, depuis 10 ans, critiquent le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain est venu avec beaucoup d'argent et que le Paris Saint-Germain s'est acheté une passion, s'est acheté un maillot. Mais quand on entend les spécialistes autour de la table parler, on entend Strootman qui veulent laisser partir gratuitement pour économiser les 500 000. On a entendu Thauvin à 20 millions. Est-ce que je me trompe? J'ai entendu Thauvin à 20 millions, un champion du monde.
Ouais, ça,
ils veulent le brader à 20 millions. C'est quand même bradé. On appelle ça bradé quand même.
Mais bradé, oui, non, parce qu'aujourd'hui, un joueur qui n'a pas joué depuis un an, avec le contexte actuel.
On sait qu'il va retrouver son niveau.
Mais lui, il ne va jamais bouger.
Si Thauvin, mais il y a des joueurs qui coûtent 50 millions pour rien. Ils ont fait deux jongles, on les vend 50 millions. Thauvin, pour moi, personnellement, il ne vaut pas 20 millions. Il y a plein d'exemples. Vous m'avez parlé de Dimitri Payet, le capitaine. Tout repose sur Payet. On a divisé à 50% son salaire. Quand tu as dit tout ça, et que t'es supporter de l'OM, t'as envie de te dire, bah oui, vendez-le ce club. Parce que si on en est à faire des projets comme ça, ouais, diminuer le salaire de Payet, 37 ans, comme l'a dit Philippe, il va finir sur une jambe au staff technique. Si on en est à vouloir laisser Strootman gratuitement, si on en est à faire des conclusions comme ça, il est préférable pour la Ligue 1, pour le championnat, ah bah oui, et pour nous, et pour les supporters et pour les amoureux de football, oui, c'est mieux de vendre l'OM plutôt que de voir l'OM aller en Ligue des Champions l'année prochaine pour se faire découper. Surtout, parce qu'ils vont avoir des joueurs à moitié en bric-à-brac.
Si c'est pour un vrai projet sportif, parce oui, que si ce qui se profile s'avère exact dans les semaines à venir, c'est donc du sponsoring d'État, entre guillemets, ça pourrait être les Saoudiens. On sait que c'est une façon de se positionner face au Qatar. Et donc ce sont les mêmes leviers, les mêmes ressorts. C'est-à-dire qu'il faut, il faut de l'image qui passe par la performance sportive et qui passe aussi par des têtes d'affiche. Oui. Ça voudrait dire miser sur des joueurs. Je sais pas, je dis des trucs en l'air, mais tu peux faire revenir Griezmann. Tu peux, si vraiment tu as les moyens de faire des choses. Et là, je peux vous dire que dans les tribunes, si vous expliquez aux supporters de l'OM que par exemple vous faites revenir Griezmann en France, je pense qu'ils auront aucun problème avec
la
nature de l'investisseur.
On se souvient tous quand Paris Saint-Germain ils sont arrivés, les Qataris. On a entendu des noms arriver, on n'y croyait pas. On a entendu des Thiago Silva, on a entendu des Pastore, on a entendu des Ibrahimovic. Tous les ans, comme tu dis, tous les ans, il y avait des nouveaux joueurs, on disait, c'est pas possible. Jusqu'au cas Neymar, souvenez-vous. Mmh. Neymar, bientôt à Paris, n'importe quoi, c'est pas possible. Neymar, il viendra jamais. Neymar, il est à Paris. Donc, tu peux t'imaginer, comme tu dis, avec les Saoudiens, tout et n'importe quoi. Pourquoi
Baptiste
pas
Durieux, l'OM fait parler.
Toujours énormément nos auditeurs sur l'arrobase RTL Foot et sur la page du direct RTL.fr. Message de Quentin, le rachat de l'OM, c'est comme le retour de Neymar au Barça. Une rumeur par jour et rien dans le concret. Comme le dit Gervais Martel, la discrétion est un gage de sûreté et de véracité. Et puis Jean aussi qui ironie sur la vente de l'OM et qui nous dit, selon mes informateurs, le fonds du Moyen-Orient versera 300 millions pour acheter le club, 200 millions pour éponger le passif, 200 millions aussi pour le mercato et 384 euros pour aider Dimitri Payet à finir la fin du mois de juin avec son nouveau salaire. Et puis beaucoup de messages également sur Dimitri Payet, évidemment, mais le message d'Étienne, le geste est beau, mais ne voyons pas le mal partout. Mais honnêtement, 50% de salaire en moins, c'est plus que ce qu'il pourrait toucher aujourd'hui dans un autre club pour les 4 années à venir. Payet est plutôt un grand stratège, qu'un grand seigneur.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 50% de 500 000 euros.
Ouais,
donc Payet, 32, 33 ans bientôt, à 250 000 par an. Et l'année du vente, c'est que 30%, donc ce sera 330 000.
Ouais, sur 4 ans.
Il ne fait pas une mauvaise affaire non
c'est
plus.
C'est bien placé, lui, le gagnant. C'est Payet.
Bah, il a lissé son salaire.
Il est bien. Il est
après,
bien.
On lui est tombé dessus quand même sur sa phrase où il ne voulait pas baisser son salaire pendant le Covid pour payer ses factures, etc. Je l'ai écouté en conférence de presse.
Ouais,
il a expliqué quand même.
Il a expliqué.
Je trouve
les sociétés, tout ça.
Oui, qu'il avait 3 sociétés, qu'il y en avait une qui était banqueroute, la deuxième était en difficulté, et qu'aujourd'hui, à ce moment-là, il ne pouvait pas baisser son salaire. C'est pour ça qu'il le fait aussi aujourd'hui. Donc, non, j'ai trouvé que son message était assez clair.
Il a beaucoup de défauts,
et c'était important de préciser.
Idiot, ça c'est certain.
On se retrouve dans quelques instants jusqu'à 20h. On refait le match. C'est la dernière de la saison avec tous les chroniqueurs qui ont participé justement à cette saison et à son succès. Grâce à vous, fidélité et confiance. Ah. Merci à vous, auditeurs d'RTL. On se retrouve justement dans quelques secondes sur RTL.
RTL, on refait le match.
Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Balbir sur RTL.
On refait le match.
Jusqu'à 20h avec Raymond Abou, Baptiste Després du Figaro, Eric Silvestro et Philippe Sansfourche d'RTL. Je vous le disais, les consultants, ils étaient une douzaine. On va saluer Jean-Philippe Goron qui ne peut pas être avec nous ce soir parce qu'il a subi une petite intervention chirurgicale jeudi. On le salue, on le remercie pour sa participation lors de cette saison. David Aiello est avec nous. Bonsoir David.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous.
Alors qu'est-ce que vous avez retenu, David, de cette saison, vous?
Et bien moi, je voulais revenir sur quelque chose qu'a évoqué d'ailleurs Gervais Martel tout à l'heure en fin d'intervention, c'est les huis clos, ces stades vides qu'on a vu tout au long de la saison. Alors c'est vrai qu'il y a eu, sur la fin de saison, il y a eu cette histoire de huis clos pour les raisons sanitaires, et je ne reviens pas dessus, c'est juste qu'on s'est aperçu à ce moment-là à quel point le football est un spectacle vivant et populaire, et que là, on ne l'a pas eu et que ça nous manquait. Mais par contre, ce qui s'est passé en début de saison en France, avec les décisions de la commission de discipline, c'est pas dû au contexte sanitaire, c'est des décisions politiques à quelque part, et ça j'ai vraiment regretté ça qu'on a eu quand même en France une vingtaine de décisions de la commission de discipline qui ont entraîné des huis clos partiels ou complets, et ça c'est une politique unique en Europe. Il n'y a pas un autre grand championnat européen qui fait ça, l'Italie ne le fait pas, l'Espagne ne le fait pas, l'Allemagne ne le fait pas, et on est les seuls. Donc moi j'aimerais bien qu'on arrête avec ces sanctions collectives, qu'on se mette vraiment en tête d'avoir un dialogue qui a commencé d'ailleurs avec les supporters pour construire quelque chose avec eux, les intégrer au spectacle qu'est le football, renforcer sans doute les sanctions individuelles et arrêter avec les sanctions collectives. Parce que vraiment, ça donnait une image pitoyable du football français. Encore une fois, on est les seuls à faire ça au niveau européen. Et moi, cette saison, ça m'a vraiment attristé. Et encore une fois, on l'a vu sur la fin de saison également.
Merci beaucoup, David Aiello, pour cette saison à vos côtés. C'était un plaisir. Baptiste Després du Figaro, une réaction à ce que dit David?
Non, je suis d'accord avec David. Et puis même au-delà de ça, sur le côté huis clos, je rejoins un petit peu ce que disait Gervais Martel sur les... Et puis ce que disait aussi Philippe tout à l'heure. Honnêtement, moi, je m'ennuie complètement là. Quand je vois les huis clos pendant cette période de Covid, match anglais, match allemand, etc. J'ai du mal à suivre ces matchs. Ça dénature complètement le foot. Donc effectivement, c'est pour moi, c'est un fléau. Alors, c'est des choses qui sont complètement différentes par rapport à ce qu'a dit David, mais de façon générale avec le Covid, c'est
la commission de discipline, comme la Ligue, il faut tout revoir, il faut tout remettre à plat. Il y a eu des décisions totalement aberrantes sur les sanctions. La dernière en date, pour parler d'un club que vous allez me dire je connais bien, le cas de Jelson Martins qui prend 6 mois de suspension. Le gars prend 6 mois de suspension. Alors on peut juger que c'est léger, pas léger, logique, pas logique parce qu'il a poussé un arbitre. Le gars prend 6 mois de suspension. Il y a le Covid au milieu, le championnat est arrêté. Comme ça, du jour au lendemain, on décide de finalement, ah ben non, ça va pas être 6 mois, on va prolonger, parce que ça, comme il a pas manqué assez de matchs, on va prolonger. Mais comment tu peux, quand t'es une commission de discipline, décider ça? C'est-à-dire que si t'as donné 6 mois de suspension, c'est 6 mois de suspension. Il y a d'autres sports où en effet les mecs, du coup,
c'est trop facile. Sinon, il est blanchi de manière totale.
Philippe, mais dans ces cas-là,
c'est les autres qui sont punis autant que lui. Attendez,
on va pas faire un débat sur cette.
Mais t'as des joueurs qui auraient pas joué l'Euro. T'as des joueurs qui auraient pas joué l'Euro et qui vont peut-être jouer l'Euro l'année prochaine. Donc tu vas dire, ben non, l'année prochaine tu joues pas l'Euro parce que comme t'étais blessé l'année dernière et que l'Euro devait avoir lieu à ce moment. Là,
c'est mais ça, blessure. Ça s'appelle une conclusion vertueuse par rapport au fait qu'il était blessé.
C'est
que
une blessure.
Là, c'est différent.
Ça, c'est une suspension.
Type, il a failli
mais tu peux pas jouer avec
un arbitre.
Mais dans ces cas, tu donnes des matchs de suspension, pas une durée.
C'est pas bête.
Tu peux pas changer le règlement, Philippe. Tu donnes 10 matchs de suspension. Tu donnes pas 6 mois.
Il y aura une conciliation. On va transiger. Je crois qu'il y a des instances qui sont dessus.
Tu verras que la Ligue perdra. Allez, la Ligue perdra.
C'est normal qu'il ait quand même un peu plus que les 6 mois qui ont été
conclus. Tu peux pas changer la règle.
S'il vous plaît, on va passer à Bruno Constant. Bruno Constant, qui est notre spécialiste anglais. Bruno Constant, évidemment, ravi comme nous tous, parce que c'est vrai qu'on attendait ça et quand on frissonne à Liverpool, Liverpool champion d'Angleterre.
Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Bah oui, évidemment, moi je voulais retenir une note positive. Liverpool, c'est la nostalgie. Liverpool, c'est le grand club européen des années 70-80. C'est le club anglais qui était le plus titré dans son pays jusqu'à l'émergence de Manchester United. Et c'est un club qui a dû attendre 30 ans avant d'être à nouveau titré en Angleterre, de remporter ce titre de champion d'Angleterre. Donc voilà, c'est 30 ans, c'est énorme. C'est une vie à attendre un titre à nouveau. Il y a certains supporters qui ont même perdu la vie à attendre ce nouveau titre de champion d'Angleterre. Donc c'est un truc extraordinaire et qu'on doit forcément associer à Jürgen Klopp, qui a totalement réveillé ce géant anglais endormi et qu'en a fait un monstre. Et depuis 13 mois, ce qu'il a réalisé, c'est juste exceptionnel. Il est champion d'Europe l'année dernière avec Liverpool. Il est champion du monde à la fin de l'année 2019. Et là, il remporte enfin ce championnat d'Angleterre. C'est juste exceptionnel. Et c'est vraiment, c'était l'image du mariage parfait quand il est arrivé à Liverpool. Et ça s'est confirmé au fur et à mesure des années. C'est juste exceptionnel. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de doute pour tout le monde. C'est le meilleur entraîneur à l'heure actuelle. Et quand on voit l'équipe qu'il a construite, qui a une moyenne d'âge de 26-28 ans, on se dit que ça peut durer, que la domination de Liverpool peut continuer.
Merci Bruno Constant pour cette analyse et ce coup de cœur sur Liverpool. Merci également pour votre participation à Orfel Match tout au long de cette saison. Votre réaction sur le titre de champion Raymond Abouz de Liverpool?
Ça fait du bien pour les supporters. Il a dit Bruno, 30 ans c'est long. On les a vus alors célébrer devant le stade la nuit. Ils sont tous venus, ils sont réunis. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas les gestes barrières, les machins, les règles, mais ils étaient tellement contents que ça leur arrive. Et voilà, bravo à Klopp. C'est vrai qu'il fait du super boulot là-bas. Et moi, je suis content parce que c'est un club quand même qui est historique, Liverpool.
C'est surtout que ça nous rappelle que c'est pas rien un titre de champion et que on s'habitue trop en fait en France avec le PSG, en Allemagne avec le Bayern, en Italie avec la Juve, et on finit par banaliser ce qui est un titre de champion dans un grand championnat. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la force de ce championnat d'Angleterre, c'est que c'est une compétition qui est hyper relevée, qui est hyper concurrentielle, et que pour les supporters de Liverpool, c'est aussi fort de gagner ce titre que de gagner une Ligue des Champions.
Baptiste,
je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et puis sur Jürgen Klopp, au-delà de ses finales, au-delà de ses côté vraiment, on banalise souvent l'expression d'une victoire collective d'un groupe, mais lui c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Quand vous voyez les joueurs, alors il a pas du tout une équipe de trompette, hein, c'est pas ce que je dis, hein, il a quand même des super joueurs exceptionnels, mais c'est pas non plus des Lionel Messi et compagnie, et il a su tirer, je trouve, la quintessence de ces gars-là,
c'est ça.
Et pour ça c'est extraordinaire.
Il a pas Messi, il a pas Ronaldo, il a pas Neymar. Neymar, il n'a pas Mbappé, il n'a pas Lewandowski. Alors ok, il a Salah qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière, il a d'autres très bons joueurs, Firmino, Mané, pour citer que les attaquants, et il a le défenseur le plus cher de l'histoire peut-être derrière, mais il a aucun des tout plus grands joueurs que toute la planète s'arrache à des chiffres absolument astronomiques. Et le gars, il est champion d'Europe l'année dernière, champion d'Angleterre cette année, en plus avec un panache.
Comment?
Voilà, c'est oui, ça, ce que j'allais dire. Plus, avec un panache absolument incroyable, c'est vrai que tu dis, bah, il faut une statue pour, il y a une statue d'Arsène Wenger, il faut une statue de Jürgen Klopp très vite.
C'est quoi la mode, les statues?
Notre voix féminine d'Orfel Match, Cindy Colmenares, est avec nous. Elle voit le Paris Saint-Germain gagner cette Ligue des Champions. Cindy, bonsoir.
Eh oui, bonsoir. Le PSG arrive en quart et c'est bien parti pour gagner la C1. Alors, fermez les yeux une minute, sauf si vous conduisez, et écoutez-moi bien. Un club français, le PSG, alors que le foot français est le seul sur les 5 championnats européens majeurs et toujours au chômage partiel, devient champion d'Europe. Plus personne ne comprend cette hégémonie française alors qu'on est pas du tout les pays du foot, dit les certains. Alors, loin de moi l'idée de vous vendre du rêve, puis de vous décevoir, j'ai laissé aux Parisiens qui se sont accoupés depuis plusieurs saisons avec la remontada et d'autres petites mésaventures. Mais les PSG est en quart. Alors, souvenez-vous, tous les supporters autour du Parc des Princes, les copes qui défilaient en blouse blanche, la situation dramatique avec le Covid-19 qui a frappé si fort le monde. Mais aussi les chiens de Liès, la mythique photo de celui qui s'enlaçait un dit Mariano Tramontana. Moi, je vous dis, c'est inédit. Neymar ne se blesse pas grièvement, c'est incroyable. Il a même retrouvé un 4000 des joueurs brésiliens. Keylor Navas qui arrive pour devenir la barrière infranchissable que le PSG avait besoin, une équipe enfin soudée, si près de l'objectif. Puis il y a eu les simples, les basiques, Mbappé qui nous éblouit, Marquinhos qui fait du Marquis, Touré qui nous rappelle que ce sera encore plus difficile après le départ du Cavani, Verratti qui fait du Verratti, vous savez la petite pousse électrique qu'il faut baïonner mais qui apporte de la verticalité. Bah oui, il a même fallu que les foot fassent du basket, une organisation inédite avec un Final Week qui regroupera les quarts des finalistes pour des matchs à élimination directe en terrain neutre. Mais c'est qu'elle est faite pour vous, cette Champions League, Liga des Champions, Ligue des Champions, elle est pour vous, c'est là, parce que tout est lunaire. C'est ça qui vous réussit, les mythes, les bizarres, les tragiques, les stratosphériques aussi parfois, les fous, tout cela vous ressemble finalement. Il a fallu ça pour qu'un club aussi unique que le PSG remporte enfin la C1 et que des Saint-Déliès remplissent la capitale française ces 23 août prochains, parce que nous en avons tant besoin.
Merci beaucoup Cindy Colmenares avec sa boule de cristal, donc le Paris Saint-Germain qui va gagner la Ligue des Champions.
C'est écrit,
Baptiste Després, le Figaro.
Si on écoute Cindy, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir, on est le PSG champion d'Europe. Non, mais de façon un peu plus générale, sur le Paris Saint-Germain et puis sur le final qui se profile, ça va être ultra intéressant. C'est un format inédit, avec ces matchs secs, un peu format Coupe du Monde. Et on est tous vraiment impatients. Comme disait Raymond, il est impatient d'avoir un Toulouse-Amiens, alors j'imagine pas un PSG Bayern Munich ou autre. Et ça va être assez exceptionnel. Après, sur l'effectif du PSG, je ne sais pas si on va reparler sur les départs qui ont été actés. Ouais. Pour le coup, ils sont affaiblis à l'intersaison.
Deux choses que Cindy n'oublie pas de faire un bisou à son bisounours ce soir avant de dormir, quand même, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et secondo, juste plus sérieusement, notre baromètre sport Odoxa pour RTL Groupama cette semaine se penche justement sur cette formule de la Ligue des Champions. Elle séduit en tout cas les Français, puisque les trois quarts des amateurs de foot sont impatients de la découvrir, ce format élimination directe sur 12 jours. Alors certes, malheureusement sans public, mais en tout cas, les matchs sur un match au même endroit pendant 12 jours avec toutes les équipes, ça donne envie au public.
Philippe Saint-Fourche.
Ce qui est évident, c'est que tout le monde se fait la même réflexion. Il suffit de gagner 3 matchs sur un moment resserré, c'est la formule tournoi. Ça change la donne totalement. Et c'est vrai que toute cette pression qui a toujours été à l'origine des échecs du Paris Saint-Germain, c'est toujours quand tu avais 3 semaines entre le match aller, que ce soit face au Barça, la remontada, ou face à Manchester, que tu t'inventes chaque jour un nouveau problème et que finalement tu arrives alors que tu as 15 buts d'avance, que tu as marché sur le match aller et que tu te retrouves, c'est toi qui as peur quand tu rentres sur la pelouse. Tout ça est gommé.
Raymond Abou.
Moi je pense le contraire. J'aurais tellement voulu qu'il y ait, comme tout le monde, qu'il n'y ait pas cette épidémie là. Et j'aurais voulu, moi, justement, quand ils se font battre à Dortmund, ils reviennent, ils gagnent au parc, on les voit monter, la communion avec le public. On parle souvent, le football, c'est une dynamique. J'aurais voulu que cette dynamique, pour une fois qu'ils avaient remonté, qu'il n'y avait pas de blessés, tout le monde était là, tout se passait bien au mois de mars.
Ils ont remonté un but.
Tout se passait bien au mois de mars. Mais il fallait passer quand même à huis clos. Et là, il y a une épidémie, on arrête le football. Dans quel état on va retrouver le Paris Saint-Germain?
On se retrouve dans quelques secondes jusqu'à 20h avec Raymond Abou, Baptiste Després du Figaro, Eric Silvestro, Philippe Saint-Fourche d'RTL. A tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
On refait le match.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h avec une sorte de multiplex, avec nos chroniqueurs qui ont fait cette saison. Nous avons entendu David Aiello, Bruno Constant, Cindy Colmenares. Giovanni Castaldi est avec nous et va nous parler, Giovanni, de Karim Benzema. Bonsoir, Giovanni.
Bonsoir, Denis. Bonsoir à tout le monde. Juste un petit mot, je voulais dire quelque chose. En fait, Raymond, s'ils sont qualifiés, c'est qu'il n'y avait personne dans les tribunes, parce que quand il y a du monde, ils n'y arrivent pas au parc.
Mais non, c'est la communion avec le public, mais à l'extérieur du stade.
Jo, t'étais donc pas venu pour parler de ça, ça va pas du tout. Tu respectes pas le contrat, il est en pleine forme.
Bon, alors, non, moi je voulais.
Castaldi au tableau.
Non, je voulais parler de quelqu'un qui m'a impressionné, c'est Karim Benzema. Sur le terrain, il a été absolument merveilleux. Il concrétise une carrière absolument fabuleuse qui, à mon sens, est sous-estimée en France. Qu'il fait en club, il n'y a pratiquement aucun attaquant français dans toute l'histoire du football français qu'il a fait. Et moi, je voulais revenir aussi sur sa com, parce que quoi qu'on en dise, je trouve que pendant la crise du coronavirus, pendant le confinement, ce qu'il a fait sur Instagram, l'histoire du karting et de la Formule 1, c'est un joueur qui parle vrai. Il a aussi dit plein de choses très très bien sur Olivier Giroud en exprimant à quel point il était important en équipe de France. On a retenu que le côté bad buzz, et quoi qu'on en dise, techniquement parlant, d'un point de vue footballistique, moi je trouve qu'il y a un monde d'écart entre Benzema et Giroud, et c'est aussi bien que les joueurs le disent. On se plaint trop souvent d'avoir des joueurs qui parlent pas, et quand on a un joueur qui parle, on retient que le négatif sans prendre l'ensemble de ce qu'ils ont dit. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa saison et j'ai bien aimé son coup de com aussi.
Merci Giovanni Castaldi. Une réaction rapide. Ouais,
il nous manque,
pour
nous manque Giovanni, parce que s'il était là, on pourrait lui expliquer qu'on est d'accord avec rien de ce qu'il vient de dire. C'est absolument formidable. Hormis le fait que Karim Benzema est un excellent joueur et que, quoi qu'il en dise, il est reconnu comme tel en France. Mais donc oui. Je ne sais pas ce qu'il sous-entend. Mais la comparaison avec le karting, avec Giroud, justement, quand tu es au-dessus de la mêlée, tu n'as pas du tout besoin de faire ça. Ça démontre totalement ta frustration et le fait que tu es passé à travers dans une séquence importante qui est la sélection d'une sélection qui est devenue championne du monde sans toi, voilà. Quoi qu'on en dise. Donc Olivier Giroud, on peut en dire ce qu'on en veut, c'est le numéro 9 de l'équipe championne du monde, et ça, eh ben, il lui enlèvera pas, et surtout ça lui donnera pas à lui.
Raymond, à vous.
Non, moi j'aime bien ce que fait Benzema. Je trouve que tu restes pas autant de temps au Real de Madrid si t'as pas de talent. C'est pas du bénévolat ce qu'il fait au Real de Madrid. Il y a d'autres attaquants qui pourraient être au Real, ils n'y sont pas. S'il est là, c'est que c'est un grand joueur. Sauf que je rejoins Philippe, tu peux pas refaire l'histoire. La com aujourd'hui, comme dit Giovanni, la com aujourd'hui très bien, mais c'était la com avant qu'il fallait faire aussi de la com. Et voilà, donc il est plus en équipe de France. On a été champion sans Karim Benzema, c'est dommage. Ça restera un grand attaquant français. C'est un grand attaquant français, mais la France est championne du monde sans lui. Hein.
Moi, je suis comme Philippe, je suis pas d'accord avec toi, Giovanni, sur le côté on minimise en France l'impact de Benzema, sa carrière, etc. Je ne sais pas d'où ça sort, si c'est les pros ou anti-Benzema.
Alors, ne t'adresse pas à Giovanni parce qu'on lui a coupé la chute.
Ah, il est parti. Bah, ok, d'accord, très bien. C'est ce que disait Raymond, c'est ce que disait Philippe sur le côté longévité et puis être titulaire au Real Madrid depuis 10 ans. Aujourd'hui, les spécialistes et même le grand public, tout le monde le reconnaît.
Eric Silvestro, rapidement.
Je veux plus parler de Benzema, d'accord. En tout cas avec les Bleus.
Bon, ça m'arrange. Florian Gazan est avec nous pour parler de Griezmann, qui était sur le banc ce soir pour jouer le Celta Vigo. Barcelone a fait 2-2. Griezmann est rentré 9 minutes et n'a pas marqué. Florian Gazan sur Antoine Griezmann.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Denis. Bah, écoutez, vous connaissez Sauvé Willy, je crois qu'il faut lancer Sauvé Grisy. Hein. Il y a 2 ans, il était champion du monde, il était 3e du Ballon d'Or, il prétendait qu'il allait s'asseoir à la table de Messi et de Ronaldo. Aujourd'hui, Messi en veut même plus comme serveur. Donc, rétrogradation absolument horrible pour Antoine Griezmann. Voilà, il a fait la mauvaise décision, il a pris une mauvaise décision, comme quoi, avec tout le talent qu'on peut avoir... Et il en a, les choix de carrière, c'est important. Et aujourd'hui, c'est absolument terrible. Il y a eu le coronavirus. Lui, il y a le Barcelona Minus qui l'a frappé de plein fouet. Voilà, Lionel Messi veut pas jouer avec lui. Il a décidé de le carrer. Et ça va être comme ça pendant très longtemps. Moi, je pensais éventuellement qu'il y aurait l'euro pour le sauver un petit peu, lui remettre un peu de morale. Il n'a même pas eu d'euro avec le coronavirus. Donc, c'est tragique ce qui se passe avec Antoine Griezmann. J'ai regardé ses stats. En fait, il fait diviser par 2 par rapport à l'Atlético Madrid. Il marque 2 fois moins de buts. Il fait 2 fois moins de passes décisives. Alors j'espère vraiment, parce qu'on va en avoir besoin l'été prochain, l'euro qui va se refaire à la Suisse, peut-être être transféré, et surtout qu'il a un énorme mental et peut-être qu'il devrait passer un petit coup de fil à Giroud pour en prendre.
Éric Silvestro, merci Florent Gazan pour
juste
cette saison,
vite,
c'était
vite qu'il change de club Antoine Griezmann, parce qu'il a sans doute des torts évidemment dans tout ce qu'il a fait, dans la façon dont il est arrivé à Barcelone, mais moi j'aimerais qu'on parle du cas Lionel Messi à Barcelone, parce que si Griezmann n'est pas performant, que fait Lionel Messi depuis des semaines? Quelle est l'attitude de Lionel Messi sur le terrain? C'est ça le meilleur joueur du monde, qui est le leader de son équipe, qui donne pas le ballon à son coéquipier, qui veut pas en entendre parler, qui est tout le temps irrité sur le terrain, qui est beaucoup moins décisif depuis des semaines? Et j'entends aucune critique sur Lionel Messi. Moi, l'attitude de Lionel Messi, c'est le plus grand joueur de tous les temps, sans doute. Et je suis d'accord avec ça. Mais son attitude depuis des semaines, et à la Coupe du Monde déjà, il avait une attitude absolument scandaleuse. Et l'attitude qu'il a en ce moment au Barça, je suis désolé, mais Lionel Messi, pour moi, il faut qu'il se remette en question aussi.
Baptiste Després, Le Figaro, rapidement.
Rapidement, je trouve qu'il fait peine à voir. Il fait peine à voir. Griezmann, on le reconnaît pas. Il sourit plus sur le terrain, effectivement, avec Messi. Déjà, il est plus sur le terrain, donc c'est ultra compliqué. À moins d'un départ, je vois pas comment ça peut se solutionner.
Vraiment, Abou, il doit partir.
C'est dommage parce qu'il l'a voulu, ce Barça. L'année d'avant, il voulait signer, ça a été avorté. Il a signé là. Il l'a vraiment voulu, ce Barça. Après, voilà, que Messi lui fasse pas de passe, etc., etc. Il faut qu'il montre qu'il a un mental. Après, s'il veut partir, qu'il parte. Mais
sans fourche, Philippe, de son prénom.
Moi, je retiens juste qu'Eric Silvestro n'aime pas les artistes. Il n'aime pas Messi, il n'aime pas Federer.
Allez, on va passer à Olivier Delos Boys qui est avec nous, qui va nous parler justement du rival du Barça, c'est le Real Madrid, qui est bien content de voir le Barça prendre seulement un point au Celta Vigo. Et Zidane, surtout au Real. Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir Denis, bonsoir à tous. Vous savez, nous les historiens, on aime bien les dates et se pencher sur le passé. Il y a un an, le Real Madrid était dans une crise grave, puisque la pré-saison, comme on l'appelle, était catastrophique. Asensio blessé, Hazard en surpoids, et puis surtout un Zinedine Zidane qui était démoralisé, puisqu'il y a un an, il perdait son grand frère et devait quitter la pré-saison du Real Madrid au Canada pour retourner en France pour de tristes circonstances. Finalement, un an après, alors que tout le monde l'avait dit sur le départ, viré du Real Madrid, le voilà en position demain de prendre la tête de la Liga et pourquoi pas d'aller chercher un titre un an après le décès de son frère. Et nul doute que le connaissant, s'il est champion d'Espagne, il aura le regard tourné vers le ciel pour penser à son frère. Et puis il a aussi l'occasion de renverser la vapeur, puisque le Real Madrid est en grande forme un an après, pour renverser peut-être le Manchester City en Ligue des Champions. Après, qu'est-ce qu'il fera après ça? Imaginez qu'il soit champion et champion d'Europe. Il a annoncé aujourd'hui qu'il ne resterait pas 20 ans au Real Madrid. Est-ce qu'il restera 3 mois de plus?
Merci beaucoup Olivier Delos Boys pour votre participation à Orfait le Match. Une réaction, Raymond Abou, Zidane au Real, il va réussir?
Il va être
champion?
C'est possible. Pour l'instant, c'est bien parti. Et c'est surtout, il revient de loin. Le challenge, tout le monde avait dit, il va revenir, mais pour se planter, il ne faut pas qu'il revienne, etc., etc. On parlait de lui à Manchester. Et finalement, il est au Real. Et ce qu'il fait au Real, c'est... Pour moi, je ne peux pas parler mal de Zidane. Pour moi, Zidane, il y a Platini, il y a Zidane. C'est des
Baptiste,
mecs.
Je trouve que le Real et Zidane, c'est une des attractions là, des prochaines semaines. Parce qu'à la fois en Liga avec le mano à mano avec Barcelone, on sent qu'il a réinsufflé une dynamique. Et puis derrière, il y a aussi avec des champions. Ils sont mal engagé contre City, ça va être ultra intéressant à voir.
Philippe Sanfourche.
Plus les situations, les époques sont difficiles, compliquées, atypiques, et plus il faut des grands hommes, des champions, pour mener des vestiaires, pour mener des champions. Et je pense que c'est dans ces moments-là que les grands se révèlent, et Zinedine Zidane se réveille, évidemment, dans ces moments-là.
Moi, j'aime pas les artistes, donc je sais pas s'il peut parler de Zidane.
C'était sûr.
Moi, je pense qu'il est revenu au meilleur moment au Real, et après, il faut reconnaître qu'il fait du super boulot.
On revient dans quelques instants sur RTL pour la fin d'Orfait le Match, pour la dernière émission de la saison. Les chroniqueurs sont avec nous par téléphone. À tout de suite sur RTL.
RTL, on refait le match.
Ces dernières semaines.
On refait le match.
Denis Balbir sur RTL.
Jusqu'à 20h avec Raymond Abou, Baptiste Després du Figaro, Eric Silvestro et Philippe Sanfourche d'RTL. Xavier Barra est avec nous. Olivier Giroud, l'indestructible, est également avec vous. Xavier Barra, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre envie de voir du bon football débute.
Oui, salut Denis, bonsoir à tous. Oui, je voulais parler d'un personnage qui a commencé en Ligue 1 à 23 ans, en équipe de France à 25, il a marqué son premier but en bleu à presque 26, et il en totalise maintenant 39. Et oui, c'est Olivier Giroud, bien sûr. Et on vient d'apprendre qu'il a prolongé donc d'un an à Chelsea. Il aura 34 ans au mois de septembre. Et je trouve que cette prolongation, c'est une des meilleures garanties qu'il ait pu prendre dans la perspective de l'Euro 2020, repoussé à 2021. Parce que c'est une forme de stabilité pour lui qui en a besoin, compte tenu de son âge, et des concurrents beaucoup plus jeunes qu'on lui met dans les pattes. Il a une trajectoire loin des destins dorés de certains surdoués qui battent les records de précocité. Lui ne renonce jamais, c'est la persévérance, c'est l'abnégation, c'est la constance au plus haut niveau qui donne beaucoup d'espoir à plein d'apprentis footballeurs qui ne sont peut-être pas aussi doués à 17-18 ans, mais qui peuvent espérer y arriver un jour.
Merci Xavier Barret. Une réaction, Philippe Sanfourche, Olivier Giroud?
Mieux vaut un bon karting en première ligne qu'une mauvaise fin de fonderie.
Eric Silvestro, Olivier Giroud?
Mais tu ne peux que respecter Olivier Giroud. Maintenant, moi je pense qu'en équipe de France, il faut aussi savoir un peu évoluer.
Baptiste Desprez,
on a tout dit sur sa trajectoire et son caractère, mais par rapport à ce que vient de dire Xavier, sur le côté prolongation et une année de plus la stabilité à Chelsea, quand ils viennent de prendre Werner et que t'as encore quelques clients derrière, je sais pas si c'est, si c'est très intéressant pour lui.
Vraiment à bout.
Moi j'adore Olivier Giroud pour ce qu'il a fait en bleu, c'est génial, comme il a dit Philippe tout à l'heure, c'est le numéro 9 champion du monde de l'équipe de France, mais j'ai peur que ce coronavirus ait reculé l'euro, j'ai peur qu'en 2021 ça passera pas pour lui en bleu.
Après juste pour parler vraiment foot, moi j'ai regardé cette semaine le match de Chelsea face à, face à City. Il a encore un rôle hyper important et l'éclosion de joueurs qui vont à 200 à l'heure comme Pulisic à ses côtés sont aussi aidés, favorisés par ce type de joueur qui finalement est assez, assez rare et même en Angleterre il n'y en a pas 12 000 des comme ça.
Merci beaucoup à Xavier Barré en tous les cas de son intervention et pour cette saison également. Sébastien Tarago du journal L'Équipe est avec nous. Sébastien Tarago, le pugnace Tarago est là.
Ah bon,
il va nous parler un petit peu, c'est un petit peu le Jean-Michel Aulas.
Mais tout le monde l'aime bien dans la rue, mais les gens me disent moi j'adore Sébastien Tarago.
Amiens.
Il est méchant, il est bien, Tarago.
Sébastien Tarago, Amiens dans le viseur.
Oui, sinon je suis quand même le plus sensible de vous tous, mais c'est pas grave. laissons la réputation perdurer. Mais oui, je ne peux pas parler de cette saison sans parler d'Amiens et sans parler du Mans notamment. Je trouve que le football français s'est fourvoyé, que c'est une honte absolue. C'est l'une des plus grandes hontes à laquelle j'ai assisté depuis que je suis dans ce milieu. Ça fait plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'on condamne des clubs, on coule par le fond des clubs, on envoie sans doute des gens au chômage alors que la saison n'était pas terminée. Je vous rappelle que Amiens était à 4 points du premier non relégable, que Le Mans possède le même nombre de points que Niort, 26 points en Ligue 2, qu'il va se retrouver en National et qu'on sait à quel point c'est difficile de se relever d'une descente en National. C'est la plus grande honte à laquelle j'ai assisté depuis que je travaille dans le milieu du football. Et je trouve, ce qui me scandalise le plus, c'est que ça, j'ai l'impression que ça passe comme ça, on trouve ça normal. On a arrêté un match à la 60e minute et on a décidé qu'une équipe avait gagné. Si ça avait été Saint-Etienne en Ligue 1, qu'aurait-on dit?
Ah mais Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne. Eric Silvestro.
Moi, je suis entièrement d'accord avec Sébastien. Et surtout, je trouve, je l'ai dit tout à l'heure avec Gervais Martel, ce qui me gêne, c'est qu'on se cache derrière une pseudo-excuse de calendrier au lieu d'être honnête, de dire on veut de l'argent, on veut pas partager l'argent, on en a rien à faire de la solidarité dans le football. Ben, au moins, assume quand c'est comme ça. Et je trouve, comme Sébastien, que c'est un pur scandale.
Merci à Sébastien Tarago pour cette saison. C'était encore une magnifique rencontre, Sébastien Tarago, d'être avec nous tout au long de la saison avec votre pertinence, votre gentillesse, contrairement à Raymond Abou. Moi, je pense que vous êtes un vrai gentil. Stéphane Powell est là et il va évoquer lui le huis clos. Ça l'intéresse le huis clos, Stéphane Powell, il adore ça. Stéphane.
Ça va les amis, tout va bien, vous allez bien? Non, mais moi je vais juste vous dire qu'il y a des décisions qui ont été prises d'arrêter ce championnat pour des raisons sanitaires, hein, on ne va pas y revenir, et qu'on a décidé certains championnats de jouer. Et moi je suis désolé, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime le foot avec des supporters, avec des frites, avec une bonne bière, et ça me gonfle. Je n'arrive pas, les enfants, je vous assure, je n'arrive pas à regarder un match sans supporters, avec des bruits de fond, avec des faux supporters qui gueulent. Moi, je ne savoure pas les titres d'Liverpool et compagnie. C'est dur ce que je vous dis, mais le vrai foot, c'est pas ça pour moi. Mais je sais que c'est mieux ça que rien, comme va me dire mon ami Philippe Sanfourche. Mais voilà, quoi. Moi, ça m'a gonflé un peu.
Je sais pas non, il est d'accord avec toi.
Voilà, ouais. Et je voulais juste vous dire aussi, parce que je sais que le temps est
ouais, complet, justement, vas-y, fonce.
Je voulais tous vous remercier parce qu'on a passé. Merci aussi à Christian Olivier, à toute l'équipe sport, à Philippe, à Sylvain qui est pas là, à Eric et voilà, et toi Denis. On a passé un bon moment et tu sais la chance qu'on a là, tous les copains là, c'est qu'on peut parler et qu'on a le droit de dire ce qu'on pense dans le foot. Il y a eu cette année très compliquée avec Aulas, avec ce que vient de dire Sébastien Tarago. Mais pendant cela, c'est que du foot les gars. Il y a d'autres priorités que cela. Même si de temps en temps on a mal au derrière. Parce que c'est comme ça, mais d'abord protégeons-nous et d'abord sauvons les vies, quoi. Et je pense que le foot, c'est, même si j'aime, c'est ma passion, c'est aller à toi.
Merci beaucoup Stéphane Powell également à toi pour cette saison. Dominique Sévrac est avec nous, PSG Dortmund. Ce sera ton match, Dominique Sévrac, que tu retiendras?
Oui, bah, c'est des jeux aussi. Bonsoir.
Bonsoir Dominique.
Si je ne me trompe pas, c'est la dernière image de football en France. Et c'est dire à quel point ça nous manque, ça me paraît il y a un siècle, voilà, c'était un moment suspendu dans une année qui va rester historique. On parlera encore de ce Covid et de cette saison dans 100 ans. Voilà, bah le football nous manque, c'est l'image d'un football un peu spécial avec cette communion à l'extérieur qui est à la fois exceptionnelle et inconséquente parce que peut-être qu'il y a eu un cluster et qui a favorisé la maladie. Mais voilà, il y a tout dans ce match, il y a une dramatique incroyable, il y a tout ce qu'on aime dans le foot, sauf le huis clos, mais le huis clos, il n'est pas vraiment respecté, puisqu'il y a 4000 supporters dehors. Et puis peut-être aussi que ça sera le point de départ d'une belle aventure pour le Paris Saint-Germain en août à Lisbonne. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de retenir cette saison.
Merci beaucoup Dominique Sévrac pour votre pertinence à chaque fois. Dominique Sévrac, le Parisien aujourd'hui en France, Raymond Abou, une réaction ?
Non, je suis d'accord avec lui. J'ai pas trop de réactions, on n'a pas beaucoup de temps, je suis d'accord avec lui.
Il nous manque, mais Dominique
davantage. Il nous manque beaucoup.
Ouais. Eric Silvestro.
Dominique nous manque beaucoup.
Baptiste Després du Figaro.
On est tous foot, on attend que ça. Là.
Christian Olivier est avec nous pour conclure la soirée. Christian Olivier, le directeur des sports d'RTL. Christian, une saison qui a été très particulière pour tout le monde.
Bonsoir les amis. Alors on m'a demandé de faire court, si j'ai bien compris. Je suis la variable d'ajustement avant les informations de 20h. Alors je voulais simplement...
Vous avez perdu 10 secondes déjà.
Je voulais simplement remercier Denis Balbière pour la qualité de la présentation de ses émissions, bien sûr. Remercier tous les présentateurs qu'on vient d'entendre, tous les chroniqueurs qu'on vient d'entendre pour leur expertise, leur bonne humeur et leur bienveillance. L'année, la saison n'a pas été facile. Les émissions ont été présentées en direct, même en période de confinement et tout en respectant les gestes barrières, car personne n'est exonéré, évidemment, de donner l'exemple. Mais on a voulu, d'une certaine façon... changer les idées et donner de la bonne humeur, de la bienveillance à tous ceux qui de l'autre côté du poste nous écoutaient, car sans les auditeurs, parlons des auditeurs, eh bien nous n'existerions pas. Donc merci à vous tous, peut-être que autour de vous certains ont connu un peu de tristesse et un peu de peine. Beaucoup ont également écouté, puisque c'est la première offre 18h30, 20h sportive le samedi soir sur l'antenne du RTL. C'est donc la première offre. Merci à tous les auditeurs et Denis, merci à vous tous. C'est une grande fierté pour moi d'avoir, grâce à vous, avoir eu la responsabilité d'offrir 7h30 de direct chaque samedi soir avec une petite pensée au créateur de cette émission On fait le match, Eugène Saccomano. Salut à tous.
Merci beaucoup Christian Olivier, merci également à toutes les équipes techniques, Lucas Dindeleu, Damien Béchiot et les autres. Merci Raymond Abou pour cette belle saison, Philippe Sanfourche, Eric Silvestro d'RTL, Baptiste Després du Figaro. Merci également à Baptiste Durieux qui est avec nous depuis quelques temps maintenant pour relayer les opinions des auditeurs. Merci de votre fidélité, de votre confiance. C'était un grand plaisir de vivre cette saison à vos côtés, à tous, et puis également aux auditeurs, aux auditrices d'RTL, toujours aussi fidèles. Et à très vite sur les chaînes du groupe M6. À tout de suite.
RTL. Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.